Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. On est là, on est bien, magnifique émission. Oui, la Ligue des Champions, le débrief de la Ligue des Champions. Bah oui, maintenant on est en mode Europa League aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, pendant plus d'une heure, on va parler du Paris Saint-Germain, de ce qui s'est passé hier. On va refaire le match, bien sûr, et encore mieux que dans toutes les émissions, parce que quelle émission aujourd'hui, qu'est-ce que je suis bien entouré en milieu de semaine comme ça avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Ça va et toi?
Ouais, bah là on est bien, il y en a, il y en a qui sont assez énervés. Les anti-parisiens, c'était bien de les avoir après le match, comme ça, après une défaite, comme ça ils vont se lâcher.
Les anti-parisiens.
Christophe Dugarry, salut Christophe.
Salut Dugarry.
Bonsoir messieurs, je fais partie des anti-parisiens, dis-moi, explique-moi.
Non.
Oh, bien sûr que t'es un anti-parisien,
oui,
on le sait.
Ok, non, mais écoute. Non, mais c'est bien de voir comment tu.
Enfin, du gars, il s'en fout des clubs.
Que tu me dises comment tu me vois, comment tu me sens. Voilà, non, mais très bien, écoute.
Voilà, bah écoute, on en a.
Je me sens pas comme ça, mais écoute,
non,
si tu me sens, y a pas de
bien
soucis.
Sûr. Non, mais j'ai confondu. Eric Dimeco avec nous. Salut, Eric.
Salut. Dis-moi, ne t'habitues pas trop quand même à me faire travailler à milieu de semaine, toi, surtout pour me recevoir comme ça, plus. Hein.
Bah,
tu crois quoi, toi?
Franchement,
je me suis disputé avec Pierrot, mais disputé avec toi.
Ouais. Et
non,
c'est pas fini.
Tu vas pas te disputer. Moi, je t'ai entendu, mais je pense
et
que.
Et tu vas te disputer avec moi, mon Rico.
Eh ben voilà, il était un gote.
Quel jour.
Alors que ça se saucissonne tous les deux, on va se disputer. T'es un gote, toi.
C'est fou.
Bon, après, vous détestez. Donc,
t'imagines les semaines d'Eric, il se réconcilie avec Vatal lundi et il se fâche avec tous ses amis en semaine.
Avec Pierrot.
Terrible. Bon, c'est un événement, évidemment, ce Rotten sans flamme. Ce soir, spécial Coupe d'Europe. On va revenir sur la défaite du PSG contre Barcelone hier, 3-2, car aller de la Ligue des Champions. À 18h30, Kylian Mbappé sera l'accusé du soir. Accusé d'être passé totalement à côté de son match. Aucun tir cadré, 13 ballons perdus. Il a déçu dans ce grand rendez-vous. C'était peut-être l'un de ses derniers matchs sous le maillot parisien au Parc des Princes en Ligue des Champions. C'était soit l'avant-dernier, soit le dernier. Peut-être le dernier, donc, pour Kylian Mbappé. À 18h45, le casard enchaîné. Débriefing de Luis Enrique après le match. Julien avait placé un micro dans le vestiaire du PSG, donc vous entendrez tout ça. Ça s'annonce fameux. Et puis à 19h, on passe en mode Ligue Europa, tu l'as dit, Jérôme. Rotten se chauffe. Jérôme ne croit pas une seconde au miracle de la Coupe d'Europe pour l'OM. Quart de finale de Ligue Europa sur la pelouse du Benfica pour les Marseillais ce soir. On en parlera avec Duga, avec Eric et avec vous, supporters de l'OM, au 32-16. Et puis on n'oublie pas Lille à 19h30. Le troisième club français toujours engagé en Coupe d'Europe. Lille en déplacement à Aston Villa. Le LOSC est-il assez armé pour tenir tête aux Anglais? Jérôme, oui. Le PSG a perdu, mais l'expérience RMC continue.
Ah,
on
oui.
vous propose toujours
eh oui, parce
l'expérience.
Que rien n'est perdu.
Rien n'est perdu. La remontada est possible,
ça,
Jérôme.
Alors, on ne va pas appeler ça une remontada quand même. Bon, un but d'écart.
Ah, ouais, c'est vrai. Barcelone-PSG, c'est mardi prochain, le 16 avril. On vous offre le voyage, la nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes RMC Sport avant le match, la place pour le match. Écoutez bien l'émission. Quand je vous donnerai le signal sonore, la musique de la Ligue des Champions, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. Mais on y va tout de suite sur Paris. L'histoire se répète pour les Parisiens en Ligue des Champions.
Dembélé qui va la récupérer. Ouais, allez, le voilà. Enfin,
tout arrive.
Décisif. Dembélé.
Moi, je trouve le PSG bien meilleur et en progression. Ça, c'est vrai. Ouais. Et ils m'ont agréablement surpris sur les dernières prestations.
Luis, l'appel, l'accélération. Vitinha. Oh, quel but. Oh, quel but de Vitinha.
L'avantage du Paris Saint-Germain, c'est que t'as Kylian Mbappé, peut-être le meilleur attaquant au monde. Ah bah, d'accord. T'as un grand gardien dans les buts. T'as l'avantage d'avoir ces deux postes essentiels, deux repères pour le PSG.
Ça
change bien les choses. Hein.
Oh là.
L'égalisation pour Barcelone et le doublé pour Rafinha. Christensen de la tête qui bat tout le monde, qui saute plus haut que tout le monde, renversant le Paris Saint-Germain. C'est confirmé. Défaite du Paris Saint-Germain. Au Parc des Princes, 3-2.
Viser la lune, ça me fait pas peur.
Tu l'adores, Amel Bent.
Ah, bah oui, on l'embrasse, elle nous écoute tous les jours.
C'est vrai.
Avec son mari.
Systématiquement.
Non, mais c'est vrai qu'elle nous écoute beaucoup.
Une auditrice fidèle.
Eh ouais, on l'embrasse.
Duga, Eric, Jérôme, c'était le rendez-vous de l'année. Il ne s'est pas bien passé. Le PSG s'est incliné 3-2, donc au Parc des Princes face au Barça, quart de finale de la Ligue des Champions. Un scénario à rebondissement, des choix surprenants de Luis Enrique, Marquinhos arrière droit, Asensio et Lee titulaire, 6 gauchers titularisés dans le 11 avec les 10 joueurs de champ. Autre élément important, la faillite des cadres Donnarumma et Kylian Mbappé, dont on parlera à 18h30. Paris va désormais devoir réaliser un exploit inédit s'il veut atteindre les demi-finales. Aucun club français ne s'est qualifié en C1 après avoir perdu le match aller à domicile. Le PSG a-t-il touché ses limites hier soir 32-16 pour participer au débat avec nous? Est-ce que ça y est, on a trouvé les limites de ce PSG, Jérôme Bretagne?
Les limites, je sais pas. Non, j'irai pas jusqu'aux limites. Par contre, moi, je vais axer sur la déception. Vous m'avez entendu avant le match hier. J'étais très positif, à juste titre, par rapport à ce que je voyais. Je suis comme quoi, je suis pas visionnaire parce que j'ai été trahi par des amis. En fait, j'ai été trahi par le gardien et par le meilleur joueur de l'équipe, Kylian Mbappé. Mais si on dit ça, la trahison vient plus du style du Paris Saint-Germain. Comment tu appréhendes ces grands rendez-vous? C'est des matchs incroyables à vivre. L'avantage, c'est que...
Surtout que tu nous avais dit, Jérôme, que la mentalité avait changé.
Oui, c'est vrai.
Tu avais insisté, là, depuis des mois, tu insistes sur le fait que la mentalité, l'ambiance, l'atmosphère, l'envie des joueurs a changé.
C'est vrai, du gars.
Malheureusement, non. Ça ne s'est pas vu.
Mais oui, mais c'est là-dessus que je sens la trahison. Alors, la trahison est un grand mot, mais...
Non, je crois pas.
Mais franchement, je ne comprends pas. Tout le monde est unanime pour dire que au sein du club, il y a de la sérénité, il y a de l'affection entre eux, beaucoup plus qu'il y avait. Il y a un entraîneur qui est, où tous les joueurs, et là je me suis pris la tête hier avec Daniel Riolo, tous les joueurs, quasiment tous les joueurs, adhèrent à son projet et à ce projet-là qui est ambitieux et qui est parfois même compliqué à comprendre. Et on l'a vu encore hier avec l'équipe qui met en place. Mais une fois que tu as dit ça, moi je reste persuadé que ces matchs-là se jouent aussi d'un point de vue mental. Et mentalement, je suis désolé, quand tu joues un match à domicile, dans un stade, et du gars Eric, vous y étiez pas, nous on y était. Je peux te dire que c'est la meilleure ambiance des quatre quarts de finalistes, quart de finale qu'il y a eu.
Le public a été au rendez-vous.
Il y avait une ambiance de malade. Les gens, ils attendaient que ça, de suivre leur équipe, de les pousser. Mais quant à cette ambiance-là.
Le problème, c'est qu'il n'y avait que le public.
Oui, mais du gars, moi, il y a quelque chose, et c'est pour ça que je te parle de trahison. C'est que, encore une fois, et ça se répète à Paris, et c'est là que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le supplément d'âme. Pourquoi il n'y a pas l'envie de se transcender. Beaucoup plus individuellement, je ne parle même pas du collectif, je parle individuellement. Pourquoi tu ne fais pas plus d'efforts qu'à l'accoutumée? Pourquoi au premier coup dur ou à la première fatigue, les mecs, ils se regardent un peu, ils regardent leur pompe, la plupart, et puis ils se disent.
T'as vu ça toi hier soir?
Ouais, j'ai vu ça de la part des attaquants. Et on parlera de Kylian Mbappé, entre autres, mais je suis désolé, mais il y a des attitudes sur ces matchs-là. Tu dois te servir du public pour les emmener avec toi et qu'ils restent et que ça soit dur. Parce qu'en face, il y avait des gamins aussi. Il y a des gamins. Et les gamins, on est passé par là. Quand t'as un peu moins d'expérience dans un climat hostile qui est difficile avec un adversaire qui a envie de te monter dessus, c'est difficile de jouer au football. C'est la réalité pour tous les grands joueurs et tous les jeunes joueurs. Le problème, c'est qu'à Paris, au bout d'un quart d'heure, parce que le PSG avait bien démarré son match, ça a duré 10 minutes seulement. Et il y en a qu'un qui a montré l'exemple, c'est Nuno Mendes. C'est trop peu. C'est trop peu. On parlait des cadres, eux ils doivent faire les efforts pour emmener les gens, pour avoir envie de les supporter. Et au bout de 10 minutes, t'as pu gagner un duel. Ça, c'est pas possible dans le football. Que tu sois un joueur technique, et je me suis pris la tête hier dans l'after avec Daniel Riolo là-dessus, dire il peut me raconter ce qu'il veut, oui, il met des guerriers et tout ça, mais si c'était la solution de mettre que des guerriers, ça serait. Non, il faut des bons joueurs de football. Mais le bon joueur de football, comment il s'éclate? C'est en gagnant déjà les deuxièmes ballons, en gagnant les duels. Le problème, c'est qu'à Paris, au bout de 10 minutes, un quart d'heure hier, t'as senti que l'adversaire il prenait le dessus, que Lewandowski il a joué dans son salon tranquille et je dévide la tête et je garde le ballon dos au but et que du Gundogan pareil, De Jong qu'il a fait un match alors qu'il revient de blessure, jamais tu lui as mis une pression, il a gagné 3 duels sur 4 de Jong. Quand toi à contrario, tes milieux de terrain, Lee, Asensio, Vitinha en première mi-temps, parce que autant la deuxième il a été bien meilleur, mais la première mi-temps, Ruiz ont gagné un duel sur 5, mais c'est pas possible, tu peux pas gagner un match de football comme ça. Et après tu peux me parler de toutes les dispositions tactiques que tu veux au monde, si psychologiquement t'es pas prêt à faire beaucoup plus d'efforts au Parc des Princes pour emmener les 50 000 personnes qui étaient là et qui avaient envie de vibrer tout au long du match pour renverser Barcelone, tu n'y arriveras pas.
Voilà. Duga, est-ce que le PSG a touché ses limites hier?
Oui, ses limites, oui, forcément. Hier ça a été à mon avis le cas. Les limites de l'organisation de son entraîneur, la limite des dingueries de son entraîneur, encore qui nous a préparé un truc en avant-match. voilà, qui a absolument servi à rien à son équipe. Alors après, j'entends ce que dit Jérôme et je partage son avis, bien sûr. Mais on peut pas parler non plus que d'envie. Y a aussi des gens qui ont des responsabilités, les joueurs, mais aussi un entraîneur qui est là pour faire une composition d'équipe, qui doit permettre à son équipe d'être meilleure. Il doit annoncer à son équipe des intentions de jeu, qui doivent permettre à son équipe d'être meilleure, d'être conquérante, d'avoir cette possession. Et ça, malheureusement, je n'ai toujours pas compris à quoi a servi la tutélarisation de Asensio. Pourquoi il a été mis là? Je comprends pas.
À rien, parce qu'il est sorti à la mi-temps.
Qu'est-ce qu'il a voulu faire de ce joueur en le mettant dans cette position et en le titularisant? Je sais pas. La même chose pour Kang In-Lee. Alors, l'avantage avec Kang In-Lee, c'est que t'es jamais surpris de ce garçon. Ouais. C'est-à-dire qu'il joue toujours de la même manière. C'est-à-dire tricoter sur son pied gauche et mettre des espèces de ballons devant ou,
voilà, bon, je sais bon, j'ai pas.
Une passe à un voilà, je sais pas à quoi ce garçon sert. Il a certainement des qualités, il a certainement du talent, mais pour l'instant,
c'est, on l'a pas vu, hein.
C'est une énigme absolue. T'es jamais déçu, hein. T'es jamais déçu parce que.
Bah non, il te propose jamais rien. T'attends rien.
Voilà, il te propose jamais.
Mètre, donc ça va, c'est une passe à un mètre voilà. Systématiquement.
Donc forcément, je comprends pas ce que Luis Enrique, qui a l'ADN du Barça plus que n'importe qui d'autre, a voulu mettre en place. Moi, j'avais identifié avant le match, parce que je m'amuse toujours un petit peu à le faire. Je me suis dit quel est le point faible de cette équipe du Barça. Où va souffrir le Barça? Où va souffrir le Paris Saint-Germain? Pour moi, le point faible, il était criant hier. C'était le côté droit et le poste derrière droit de Koundé. Voilà, pour moi Koundé c'est pas son poste, ça ne le sera jamais. Je le trouve en énorme difficulté quand il a le ballon et quand il ne l'a pas. Pour moi la difficulté et le point qu'il fallait cibler du côté du Barça, c'était ce côté droit, PSG, ce côté gauche. Ouais. Voilà, du Paris Saint-Germain. Je m'attendais à avoir un pressing, c'est-à-dire laisser Koundé tout seul par exemple et au moment où il recevait le ballon, tu déclenches un pressing fort, tu le montes fort un peu sur lui et les ballons tu allais tous les récupérer les uns après les autres et puis tu le mettais Kylian Mbappé de manière systématique, t'insistais sur Kylian Mbappé pour qu'il aille le percuter avec Mendes qui dédoublait dans son dos. Je trouvais que là ça pouvait apporter quelque chose d'intéressant.
Ouais, mais pour faire ça, je n'ai pas pour récupérer les ballons.
Je n'ai pas compris comment le Paris Saint-Germain a voulu jouer une nouvelle fois. Alors ça c'est arrivé des dizaines de fois depuis que Luis Enrique est l'entraîneur. C'est pas une surprise. Je suis pas entraîneur. Lui, comme il nous a expliqué, il voit ce qui se passe à l'entraînement. Il connaît ses joueurs. Il le voit mieux que quiconque. Et il a mis l'équipe qui pensait être la meilleure pour contrer ce Barça-là. Eh ben écoute, je pense que les joueurs ont une énorme responsabilité. Mais une nouvelle fois, Luis Enrique nous a enfumé. Il a un boulard démesuré. Une nouvelle fois avant le match, il nous expliquait que le Barça, c'était lui. Voilà, l'ADN du Barça, c'est lui.
Ouais, ce qui est, certain.
Mais retourne-y. Retourne-y aussi, il n'y a pas de problème.
Et Dugas, ce qui est certainement une erreur de com' aussi, parce que.
Non, mais il s'en fiche, erreur de com', il a un boulard.
Non, mais oui, il n'y a rien de tel pour exciter aussi l'adversaire, pour exciter l'entraîneur d'en face. Quand tu prends une réflexion comme ça, c'est pas très malin de sa part.
Je vais te dire, il est content du résultat d'hier parce qu'il va pouvoir préparer, concocter quelque chose qui va faire que là, on va dire, est-ce que c'est la victoire si ce qualifie, parce que je crois encore qu'ils peuvent se qualifier au prochain match.
Oui, parce qu'il y a qu'un but
au match retour. Voilà, c'est Luis. Qu'est-ce que va nous préparer Luis Enrique? Ça va être lui qui va réussir à sortir le coup du siècle, qui va inventer quelque chose qui va faire que si ça fonctionne, ce sera un génie. Bon, mais très bien. Eh bien, écoute, bravo, monsieur Enrique. J'ai hâte de vous voir au match retour. Bon,
en tout cas, la première manche, Eric, elle est ratée, hein, du Paris Saint-Germain.
Ouais, alors écoute, tout ce qu'on dit là ce soir sera peut-être contredit la semaine prochaine parce que quand tu as des Dembélé, non mais je sais bien, mais quand on a des Dembélé ou des Mbappé dans un match, c'est vrai que ça peut faire la différence. Sauf que moi et d'ailleurs je vais vous poser des questions puisque des fois moi je perds la mémoire. Jérôme, toi, quand vous faites la finale de la Ligue des Champions, on est d'accord, si je me souviens bien, parce que j'avais suivi cette campagne-là attentivement, il y avait pratiquement toujours la même équipe, si je me souviens bien, sur la campagne et les gros matchs.
Non, mais t'as raison.
Et du gars, on est d'accord. Et même en championnat, je pense que en plus vous étiez en lutte pour le titre cette année-là.
Ouais,
donc c'était toujours la même équipe, on est d'accord. Vous jouiez tous les. Quand je dis la même équipe, c'est à un ou deux près. Hein.
Oui.
Et un ou deux près, c'est du poste pour poste, avec des mecs qui toute l'année bossent avec tout le monde.
Du gars,
je présume que quand vous faites la finale, vous aussi, avec c'est la finale ou non? Le Milan là par exemple, c'est la finale sur pareil, il me semble que vous aviez,
c'est
il y avait un joueur de champ, il y avait 8-9 mecs, c'est toujours les mêmes, on est d'accord. Et donc moi pour répondre à la question du jour, moi sur ce que je vois ces dernières semaines au PSG, Et ce qu'on a vu pendant la phase de poule, voire même pendant toute la campagne européenne, on n'est pas étonné finalement. Enfin, moi, je suis pas étonné de ce que j'ai vu hier soir. Je m'explique. On attendait que le PSG monte son niveau à ce moment-là de l'année. Et c'est possible qu'une équipe qui est reconstituée à 50% mette trois mois de plus pour atteindre le haut niveau. Sauf que... Et donc, je vous confirme que moi aussi, chaque fois qu'on a fait des campagnes où on est allé loin, il y avait une ossature forte avec un système de jeu et avec des idées de jeu qu'on avait travaillées tout au long de l'année et qui souvent étaient difficiles à inculquer. Et donc, et c'est pour ça que c'est là où je vais en venir. J'en ai déjà parlé tout à l'heure et j'en ai même parlé pendant le mois qui vient de passer. Là, on radote tout le temps dans cette émission. Mais hier soir, on a vu.
Dans le Moscato Show, pas dans
plus dans le Moscato Show, bien sûr. Donc, on est d'accord hier soir, Edugal a dit Asensio pour déclencher le pressing. On attendait qu'il déclenche un pressing pour mettre un peu de la folie dans ce match. On est d'accord.
Ouais.
Et donc, vous pensez pas, mais il y a des gens, mais même au sein de cette radio, qui pensaient que en faisant jamais la même équipe, jamais le même système, des mecs qui un coup sont à droite, un coup sont à gauche, un coup sont au milieu, un coup sont devant, un coup sont défenseur central, un coup sont à l'arrière. Ils pensaient qu'hier soir, il y aurait un pressing cohérent. Mais vous savez, le pressing, ce que c'est, je le disais tout à l'heure dans le Moscato Show, c'est de l'horlogerie. C'est-à-dire que, et à plus souvent, celui qui provoque le pressing, c'est l'avançant. Parce que c'est lui qui fait partir le ballon du côté où il veut. C'est-à-dire que, comme le disait Dugas, tu peux quand t'es avançant, parce que Ter Stegen, il avait le ballon dans les pieds et il relance dans les pieds, qu'est-ce que tu fais? Tu vas un peu à droite pour qu'il relance sur Koundé. C'est toi qui déclenche le pressing. Et là, derrière, toutes les courses, toutes les couvertures, toutes les courses, c'est un travail d'orfèvrerie que tu mets souvent 6 mois à acquérir quand déjà tu as un entraîneur qui te fait travailler ça. À l'entraînement, contre les bidons, et après, en opposition, et en marche, en match. Et oui, c'est ça.
Mais oui,
tu le travailles tout seul dans un premier temps où il met le ballon à droite, tout le monde se déplace, il met le ballon à gauche, tout le monde. C'est pas, après tu mets contre les adversaires et après tu mets en match. Et là, donc, on m'explique, moi, depuis 2 mois, que le PSG va arriver en Ligue des Champions et va faire un pressing contre le Barça avec la qualité du
parce que c'est Luis Enrique qui a réussi à embrouiller
Donc, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment. En plus, les qualités et les défauts de son équipe et de ses joueurs, on les connaît. Et il a quand même assez de recul pour analyser. Donc, il n'y a pas moyen. Un mois avant, je ne dis pas de le faire 3 mois avant, un mois avant, quand tu connais ton adversaire et que tu bosses à l'entraînement et en match de championnat, puisqu'en plus, ils ont la chance de pas avoir la pression sur les matchs de championnat, donc de pouvoir le bosser. C'est-à-dire... Et donc, il y a toujours des changements, mais c'est pas un ou deux, c'est 4 ou 5 chaque fois.
Si j'entends ce que vous dites, pour vous, le responsable de la défaite d'hier, c'est Luis Enrique.
Mais non, mais c'est tout le monde.
Il faut arrêter de vouloir chercher toujours des pistes de changer des joueurs et tout. Il a pas mis son équipe dans les meilleures conditions pour gagner ce match compétitif.
Après, tu as le droit de faire mieux que ce qu'ils ont fait hier soir aussi.
C'est ce que vous dites.
Non, mais quand tu fais ce genre de résultat à ce niveau-là, c'est la faute de peu tout le monde. Mais moi, je trouve que ça se sentait ce coup-là. Ça se sentait sur ces dernières semaines. Et je te dis, la semaine prochaine, peut-être que ils ont 2 ou 3 mecs qui peuvent faire empailler un match.
Eric, allons sur ton terrain. Excuse-moi, Eric, allons sur ton terrain. Mais Asensio, il le met uniquement pour le pressing. Parce que tu penses que.
Je ne sais pas pourquoi il le met, puisqu'il n'a pas mis ces derniers temps à ce poste-là.
Ah, d'accord.
C'était un coup Ramos, c'est un coup même Dembélé qui a joué là sur le dernier match de Coupe d'Europe. Donc moi, je ne comprends pas, moi.
Moi, c'est ça que j'aimerais comprendre, puisque Luis Enrique nous explique. Qu'est-ce que t'as voulu faire? Qu'est-ce que t'as voulu mettre en place?
Non, mais même,
il est là. Tiens, Dugas, Eric, si vous voulez, on va écouter sa justification après le match, parce que voilà sa réaction après les questions sur le positionnement et le 11 aligné justement pour affronter le Barça. Écoutez.
Parce que la seule personne dans cette salle qui voit toutes les séances d'entraînement, qui connaît, répète et revoit tous les matchs, c'est moi. Parce que c'est pour cela que je suis l'entraîneur. Parce que c'est pour cela que je travaille depuis tant d'années et que j'ai pensé que c'était les meilleurs joueurs, les mieux préparés et ceux qui étaient dans le meilleur moment. Il est évident que le résultat discrédite mes décisions, mais je l'accepte volontiers. Tout ce qu'une défaite implique, je l'accepte. Je suis un sportif naturel, un professionnel au maximum, je félicite l'adversaire. Ils ont fait un grand match et long gagné, je me prépare au match retour.
Il appuie sur ce qu'il voit à l'entraînement.
Mais ça c'est difficile de le contrer là-dessus parce que à l'arrivée on voit pas les séances d'entraînement.
Pas difficile. Non, mais c'est pas difficile de le contrer.
Non, mais Eric, c'est ce que je veux dire.
Jérôme, dis-moi, cette équipe, donc, s'il a dans la tête depuis un moment et si il a fait travailler ça,
c'est faux. C'est faux.
Ah bon.
C'est faux. C'est pour ça que je te dis que il est obligé de nous mentir. Du moins, nous on voit les matchs, on voit les dernières semaines. Quand il dit c'est l'équipe la mieux et les joueurs les plus en forme en ce moment. Asensio, faux. Ouais. Kang In-Lee, on vient de le dire. On n'a jamais vu un bon match de Kang In-Lee.
Beraldo
qui a pas joué depuis deux matchs.
Et Marquinhos qui vient à peine de revenir de blessure dans le couloir.
Tu mets arrière droit alors qu'il a jamais joué comme ça. Donc excuse-moi, un milieu de terrain où tu sors Zaïre Evry qui était ta pépite depuis le début de l'année où tu l'as mis en avant et tu le sors hier ou un moment où peut-être qu'il faut être un peu combattant et comme par hasard quand il est rentré il a gagné des duels, le gamin.
Il a mis du rythme.
Beaucoup plus que Ruiz en l'espace d'une demi-heure, il a gagné.
Et excuse-moi, Jérôme, puisque tu le connais, tu parles bien le Henrique. Quand il dit on a dominé. on a dominé la première mi-temps, il se fout de notre gueule ou il est sérieux?
Oui, il se fout de notre gueule.
Bon. Ah, d'accord, ok.
Et vous savez, on s'est souvent écharpé là-dessus. Moi, j'essaye d'aller dans son sens parce que je me dis que tu fais pas 27 matchs comme ça sans défaite par hasard. Alors bien sûr qu'il y a dans la période des matchs quand on les analyse, il y a des matchs où on est un petit peu déçu, même si le PSG avait gagné ou match nul, et on se dit tiens, le PSG doit montrer plus de choses, être plus compétitif, être plus cohérent dans certaines choses. Mais à l'arrivée, les résultats parlent pour lui, donc c'est difficile d'aller.
En plus, il a été rassurant parce qu'il a dit on est invaincu à l'extérieur en championnat, à Barcelone, on va faire une belle partie. Vraiment, il nous a rassuré après le match.
Je vais te dire, je vais même pas trahir, je vais pas trahir la personne qui m'a appelé, mais le club, le Paris Saint-Germain m'a appelé aujourd'hui parce qu'ils savent qu'on va revenir sur le match là, en disant attention, il y a encore,
on est à la mi-temps du match, mais ça
je le conçois très bien. Je voulais le mettre en avant en effet.
Mais ça changera rien. La semaine prochaine on
parlera de l'excellent match du Paris Saint-Germain. C'est notre travail.
Mais moi ce que je leur ai dit, c'est que je veux bien entendre ça, il n'y a pas de souci, et de toute façon on est aussi passé par là, et c'est pour ça que moi je suis un peu le garant de ça, du moins j'essaye d'atténuer les critiques et les énervements comme Daniel Riolo hier soir en disant attention, la semaine prochaine il suffit de marquer un but et là les cartes sont redistribuées parce qu'il n'y a plus la règle de but à l'extérieur qui compte double. Donc une fois que tu as dit ça, on est passé par là. Tu peux mener 1-0 à Barcelone, c'est pas non plus l'exploit du siècle, d'accord. Maintenant une fois que tu as dit ça, quand t'entends Luis Enrique aujourd'hui nous expliquer que en effet, comme tu dis, Duga, à l'extérieur on est invaincu au championnat, mais moi je le renvoie à l'appareil, j'aurais été en face de lui quand il me dit ça, je leur ai dit mais combien de matchs t'as gagné à l'extérieur en Ligue des Champions quand ça a été dur, parce que le niveau s'élève en Ligue des Champions, d'accord. T'as pris une branlée à Newcastle, t'as pris une branlée à Milan, et t'es passé, tu t'es qualifié sans gagner à Dortmund, alors que tu méritais d'en prendre comme au boule, tu vois. Donc excuse-moi,
gagné à San Sébastien.
À San Sébastien, c'était la double confrontation et à la Real Sociedad qui est une équipe moyenne, d'accord. Il fallait que la Real Sociedad se livre un peu et ils l'ont pris dans le nez parce que Kylian Mbappé était dans un bon soir. Moi, je te dis juste qu'après ce match-là hier soir, je suis loin d'être positif et optimiste pour le PSG. Ouais. Après, j'attends qu'à être surpris. Hein.
Il faudra contredire cette stat, je vous le rappelle. Jamais un club français qui a perdu à domicile en match aller de C1 n'est parvenu à se qualifier pour le tour suivant. Jimmy, supporter parisien, nous rejoint. Il a composé le 32.
Salut Jimmy.
Salut tout le monde.
Bienvenue.
Bonsoir Jimmy.
On est en pleine forme. On aurait préféré être un peu plus positif, mais on n'a pas vu un grand match.
Ouais, bon alors moi je vous dis, ça fait depuis 20 ans que je suis le PSG. La composition d'hier, je n'ai rien compris. J'ai pas de diplôme, je suis pas entraîneur. Mais le football,
tu vois pas les entraînements toi non plus. T'es nul.
Le football sans numéro 9 et sans 6, je ne les comprends pas. Je ne sais pas d'où il sort ça, où est-ce qu'il a appris ça, mais le football sans attaquant, ça n'existe pas pour moi dans ma tête. C'est pas possible en Ligue des Champions de jouer sans un vrai numéro 10 numéro 9.
Ça a marché ailleurs, mais il y a même un autre truc. Tu regarderas la défense centrale qui fait. Comment tu fais?
Est-ce que vous avez vu Marquinhos en première mi-temps? Marquinhos en première mi-temps, on aurait dit qu'il jouait à la place de Dembélé. On avait l'impression qu'il jouait à la place de Dembélé. Il n'était pas du tout en défense. Je ne comprends pas comment Enrique, il peut appeler.
On n'est pas assez intelligent pour comprendre. Il n'y a que Luis Enrique qui comprend. On est tous des abrutis. Il n'y a que lui qui comprend le foot.
Tu t'en fais. Moi, je sais que tout est possible. Tout est possible. Et on voit souvent des défenses centrales avec deux défenseurs centraux qui sont droitiers. Mais expliquez-moi dans le football, quand est-ce que vous avez vu une défense centrale avec deux gauchers comme ça? Et c'est Didier Deschamps, ton ami Dugas, qui dit, moi, jamais je mettrai deux gauchers en défense centrale. Parce que le problème des gauchers, c'est qu'ils sont généralement que gauchers. Et ils ont l'hémisphère. Ils sont pas constitués comme les autres. C'est d'ailleurs pour ça, puisque hier je vous ai entendu, c'est d'ailleurs pour, Jérôme, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'arrière-gauche qui étaient droitiers, qui ont fait des grosses carrières, Manuel Amoros, je peux t'en trouver 1000 des trucs. Par contre, un arrière droit qui est gaucher, d'un arrière droit gaucher, ça ne s'est jamais vu. Non. Parce que on n'est pas constitué comme vous, nous, les gauchers. Donc, quand tu mets cette défense centrale là, tu sais qu'elle va avoir un problème. C'est obligé qu'elle va avoir un problème.
Mais oui. Ça, tu donnes une leçon à Luis Enrique.
Non, je donne pas de leçon. Jérôme, on est d'accord que la meilleure défense centrale, fait pour moi, mais je vais demander votre avis. Si tout le monde va bien et tout, on part du principe que là, quand tu joues, tout le monde va bien. Ta meilleure défense centrale, c'est pas Marquinhos, Lucas Hernandez?
Ah, bien sûr que si.
Donc pourquoi tu mets pas contre le Barça et Lewandowski d'abord ta meilleure défense et après tu bricoles à côté plutôt?
Évidemment. Et alors, qu'est-ce que t'as dû penser quand Lucas Hernandez?
Tu bricoles nulle part, ni à droite, ni à gauche.
Non, mais tu es obligé de bricoler parce qu'il n'y avait pas d'arrière droit. Tu mets le petit Warren, il me semble.
Merci Jimmy, supporter parisien.
On n'est pas assez intelligent.
Au 32-16. Ouais, peut-être que vous êtes un peu limité, c'est ça votre différence avec Luis Enrique.
Ah non, mais moi je le sais. Mais c'est pour ça que quand j'entends Luis Enrique parler football, je savais que j'étais un abruti. Mais là, vraiment, depuis que Luis Enrique parle football, sincèrement, j'ai honte.
Dans un instant, grand moment à venir, on va ouvrir le procès de Kylian Mbappé, accusé d'être passé totalement à côté de son match hier. Restez avec nous, Rotten sans flamme jusqu'à 20h.
C'est pas ça le procès, j'espère.
Si, c'est ça.
Qui c'est qui va le défendre? Il passait à côté de son match.
Moi, j'ai une petite idée. Jérôme Bretagne.
Passer à côté de son match.
Dumeco,
il y a Fada qui va le défendre, non?
Allez, à tout de suite, sur
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h32 sur RMC. On est là dans Rotten sans flamme, la deuxième demi-heure. Elle commence maintenant avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron. Dans 15 minutes, le moment de Julien Cazard pour se détendre. On a besoin de se détendre parce que ça a été très chaud depuis hier soir et depuis la première demi-heure.
Avec une exclue, il avait placé un micro dans le vestiaire du PSG. Donc on aura le débriefing de Luis Enrique après cette défaite.
Et puis, on pourra analyser aussi le fait entrer l'accusé qu'on va faire à l'instant, parce que là ça va être très très chaud.
Et puis à 19h, Rotten se chauffe, parce que contrairement à Jérôme, vous croyez au miracle de la Coupe d'Europe pour l'OM. C'est ce soir.
On croit toujours au miracle. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun club qui est capable de nous amener ça.
Mais tout de suite, on parle de balle.
RMC, Rotten sans flamme.
Alors comme ça, je suis l'ennemi public numéro 1. Allez-y, foutez-moi au fond du trou, oui. Oh là. Et je m'évaderai.
Faites entrer l'accusé.
Ce devait être son moment, le rendez-vous de sa saison avec Paris. Kylian Mbappé censé mener donc le PSG vers la victoire contre le Barça. C'est pas du tout ce qui s'est passé. 44 ballons touchés, 13 ballons perdus, 3 frappes tentées, aucune cadrée. Paris qui a dû en se remettre à Dembélé et Vitinha pour marquer des buts. Mbappé qui a été tensé d'ailleurs par la presse espagnole ce matin. Pour le quotidien catalan Sport, Mbappé s'est montré arrogant et s'est fait manger par Jules Koundé, le pur arrière-droit, d'Europe pour Christophe Dugarry.
Pas dégonné, là,
voilà, donc on parle de Mbappé ce soir. Mbappé accusé d'être passé totalement à côté de son match. L'accusation est d'ailleurs menée par le procureur Dugarry. Bonsoir, monsieur le procureur.
Bonsoir à tous.
Ça va en surprendre plus d'un. Mais ce soir, l'avocat de Kylian Mbappé, c'est Maître Dimeco. Bonsoir, Maître.
Bonsoir.
Et le juge.
Quel enthousiasme, ouais.
Ah, mais non, mais comme il posait le procès, est accusé d'être passé à côté. Et ben oui, il est passé à côté. Donc il n'y a pas de procès.
Ouais.
C'est pas ça la question qu'il fallait poser. Mais bon,
parce que
vous êtes des génies.
Vas-y, c'est quoi la question alors?
Non. Moi, je veux savoir qui c'est qui va l'accuser d'abord avant de le défendre. J'attends de voir les accusations.
On se dédouane pas quand même, Maître. Il faut défendre votre client.
Oui,
le verdict sera rendu par le juge Rotten. Bonsoir, monsieur le juge.
Bonsoir à tous.
Bon, monsieur Dugarry, vous qui êtes le procureur, pour vous, Mbappé n'a pas du tout été à la hauteur hier.
Non, bien évidemment, il n'a pas été à la hauteur et malheureusement, ça s'enchaîne depuis quelques semaines pour Kylian Mbappé.
Alors après, je connais déjà plus ou moins l'argumentation de mon collègue Eric Dimeco qui va défendre son client, et je suis persuadé très bien le défendre, en nous expliquant que malheureusement Kylian Mbappé n'a pas été mis dans les meilleures conditions par son entraîneur, et grosso modo, c'est de la responsabilité de son entraîneur si Kylian Mbappé n'est pas bon en ce moment.
Ça, c'est pas une belle tactique, bon. Monsieur Dugarry, de dévoiler.
Non, mais c'est pas une bonne tactique.
Il a pas d'argument.
Mais,
hein.
Mais c'est pour ça.
Ce procès, mais alors il est facile. Il se dé.
S'il vous plaît.
Je peux y aller?
Pardon.
Alors c'est pour ça que je vais pas attaquer le footballeur, parce que sincèrement, c'est trop facile. Tout le monde a vu le match d'hier. Donc, bien évidemment, que j'ai pas envie d'attaquer la performance lamentable de Kylian Mbappé. Mais là, j'ai envie d'attaquer l'homme Kylian Mbappé. Qui a montré hier, ce qu'il a montré, c'est le pire du football et le pire de l'attitude que peut avoir un joueur de haut niveau. Je parle pas d'un joueur de son niveau, de haut niveau. C'est-à-dire qu'on a le droit de rater des matchs, on a le droit de rater des passes, on a le droit d'être nul. Ça, il y a aucun problème là-dessus. Mais le comportement, l'attitude qu'a eu ce garçon hier est tout simplement et tout bonnement scandaleuse. C'est un scandale pour le foot, c'est un manque de respect, c'est une trahison pour ses supporters dans un stade qui était chaud bouillant, pour ses partenaires, pour les gens qui lui font confiance depuis des années, pour les gens qui le payent, pour les gens qui l'apprécient, et pour le foot, pour un quart de finale de Ligue des Champions. Mais tu as craché au visage de la Ligue des Champions, un quart de finale que soi-disant tu rêves de gagner avec ton club, soi-disant, mais tu as craché sur la compétition, une chance de jouer dans un stade aussi beau que le Parc des Princes, devant le Barça, un quart de finale aller de Ligue des Champions. Ton attitude, l'attitude qu'il a eue sur ce match-là, est une honte absolue. Et j'espère, alors, on va m'expliquer, il y a un match retour, je le crois encore à la possibilité que ce garçon se transforme pour le match retour et fasse gagner son équipe. Je le souhaite de tout cœur. Mais ce qu'il a montré, sincèrement, je trouve que je ne pensais pas que ce garçon pourrait tomber aussi bas. C'est-à-dire que je pense que c'est le pire match que je le vois faire en termes d'attitude. Et déjà, il y en a eu bien avant où l'attitude déjà était à remettre en question, était la cause de beaucoup de problèmes. Alors après, si on veut m'expliquer que c'est la faute à Luis Enrique, que Luis Enrique est responsable du manque d'envie de courir, du manque d'envie d'investissement de Kylian Mbappé, eh bien écoutez, c'est que je comprends plus rien et que c'est une nouvelle fois, je pense qu'il y en a qui font preuve d'un mauvais esprit et qui sont là pour défendre Kylian Mbappé, mais à mon avis, ce serait un peu fort de café de défendre Kylian Mbappé sur un match et de lui trouver des excuses sur le match qu'il vient de faire hier, ce qui est tout bonnement lamentable et scandaleux.
Parole à la défense, maître Dimeco.
Alors justement, je vais pas lui trouver d'excuses, et c'est pour ça que dans le procès, vu l'intitulé du procès, mon client sera condamné obligatoirement. Je peux amener des explications.
Allez, vous, votre idée, c'est qu'il n'est pas l'unique responsable, c'est ça, de sa prestation
hier? Oui. Non, je peux expliquer comment on en arrive là, quand on est Kylian Mbappé, qu'on a fait autant de saisons au haut niveau au PSG. Et qu'on est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde. Que je sache, et je vais encore vous poser des questions, du coup, parce que j'ai le droit de poser des questions à l'assistance quand je défends mon client. Jérôme, on est d'accord que quand tu es allé en finale avec Monaco, c'était souvent la même équipe qui jouait.
C'est vrai,
on est d'accord.
J'ai déjà vécu cette
situation. On est d'accord, voilà, ouais. Donc, on est d'accord que quand
si tu veux parler de ma régularité, de l'importance dans l'équipe, oui, c'est vrai.
Voilà, par exemple. Et on est d'accord aussi que, quand tu étais joueur à Monaco, c'est-à-dire au très haut niveau européen, tu préférais jouer que de t'entraîner et tu préférais jouer tous les trois jours. On est d'accord, Et du coup, tu étais en jambe, tu avais le rythme, tu avais la confiance en plus. Parce que du coup, les tours passés, tu étais, voilà. Donc, Maître Dugarry, si je me souviens bien, quand vous avez fait la finale contre Milan, c'est toujours la même équipe à peu près qui jouait, non?
J'ai vécu cette situation.
Hein?
Je comprends pas le rapport, mais.
Non, je veux savoir, oui ou non.
Cher confrère, allez-y développer. Quel rapport avec le fait que le mec n'ait pas envie de marcher, n'ait pas envie de courir et marche pendant une heure et demie?
Mais vous allez me laisser.
Quel est le rapport?
Mais vous allez me laisser ma tactique de défense quand même, s'il vous plaît.
Tu l'as déjà dit tout à l'heure.
Donc je vous pose une question. Vous jouiez tout le temps, si je me souviens bien, à l'époque, quand vous étiez au niveau. niveau européen. Et vous jouiez tous les matchs, tous les trois jours, et ça vous permet d'être, ça vous permettait d'être à Jean, mais en confiance, on est d'accord?
Non, hein, non, c'est, pas ça
que,
c'est pas ça
plus,
qui me permettait de courir.
Toi, non, ne fais pas trop le mytho parce qu'on a joué ensemble à l'équipe de France, je te connais par cœur. D'accord? Toi, tu préférais jouer que t'entraîner. Donc, je vais revenir à mon propos du jour. Donc, moi, ce qui se passe en ce moment avec, ce qui se passe en ce moment avec Kylian Mbappé, bien sûr que tous les joueurs ont leur responsabilité de leur performance et tout. Ok. Sauf que, vous ne m'enlèverez pas de l'esprit que ce qui se passe là ces derniers jours, parce que je vais cumuler les matchs, parce que ça fait plusieurs matchs qu'il est pas bon.
J'ai parlé de sa performance, j'ai parlé de son investissement, Eric.
Benoît, il faut quand même
on parle pas de sa prestation. Benoît, on est d'accord sur sa prestation, Benoît, Eric.
Il faut que tu lui laisses. Il faut alors, que tu lui dises que.
Non, on est d'accord.
Objection. Le problème que j'ai avec vous, maître, c'est que vous interpellez le procureur.
D'accord.
Juge, donc c'est compliqué de leur demander de pas vous
donc,
répondre.
Pour finir mon propos, Kylian Mbappé, on le croyait surhumain. Il est tout simplement humain et comme tous les joueurs de haut niveau, il a envie de jouer tous les matchs pour être en rythme, pour être en jambe. Il faut qu'il joue. Voilà. C'est-à-dire que tu le fais pas un coup sur le banc, un coup il sort, un coup. Non, non, ces mecs-là, ils jouent tout le temps. Parce que, c'est en plus, lui, c'est un pur sang. C'est-à-dire que c'est un mec qui court beaucoup, qui joue sur sa vitesse.
C'est un pur sang. C'était une chèvre hier. Qu'est pur sang.
Je suis en train de t'expliquer que ce qu'on a vu hier soir, ça pendait au nez. Mais ça fait plusieurs matchs que ça pend au nez.
Ça pendait au nez. Pourquoi? Parce que Eric, il a mis une autre.
Parce que ça fait deux mois qu'il n'a pas de rythme dans les matchs qu'on lui fait jouer. Et deuxième
c'est pour
chose,
ça qu'il pouvait pas courir hier.
Et deuxième chose, Kylian Mbappé, mentalement, eh ben oui, il est touché. On croit que ce garçon-là n'est pas touché mentalement. Mais il est touché. Donc, bien sûr que pour moi,
je m'excuse. Pardon, Kylian. Excuse-moi, Kylian. Vraiment, je suis
désolé. Donc, pour moi, je finis. C'est difficile pour moi de défendre, là, de parler. Mais pour moi, les performances et qui sont inexcusables, s'explique par ce qu'on lui fait depuis deux mois.
Donc voilà, votre client a des circonstances atténuantes, c'est ce que vous dites.
Mais oui, il sera condamné. Il sera condamné, mais j'espère que le tribunal sera indulgent parce qu'il a des circonstances atténuantes. Je suis désolé.
Parce que entre une attaque du procureur qui a été excessive, qui a été très forte, et justement une plaidoirie qui trouve des circonstances atténuantes, quel va être le verdict du juge Roten alors? Qui remporte ce procès? C'est vrai que tout le monde veut savoir.
Écoutez, ce qui me fait plaisir, c'est que tout ce qui se passe actuellement, ça fait plaisir, oui et non. Ça me donne raison sur ce que je dis sur la relation entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, son entraîneur, qui est beaucoup moins bonne. Quoi qu'on en dise, depuis qu'il a annoncé son départ, et on le voit dans les paroles de Luis Enrique, dans les actes de Luis Enrique. N'empêche que aujourd'hui, j'ai plus envie de défendre Kylian Mbappé sur ce match-là. Je donne entièrement raison et j'ai commencé l'émission là-dessus sur l'attitude qui, pour moi, sur ce genre de rencontre, avec autant de d'attentes qu'il peut y avoir sur un quart de finale de Ligue des Champions à domicile dans un stade qui était comble. Et on parle souvent de l'ambiance qui a changé du Parc des Princes, mais hier c'était fantastique. Et je félicite encore les supporters et le club parce que les deux ont travaillé ensemble pour qu'il y ait vraiment un moment très festif et très spectaculaire. Le problème, c'est que les joueurs, et Kylian Mbappé en fait partie, c'est le garant de tout ça, ne peut pas avoir cette attitude-là sur le match d'hier. Dire qu'il fasse un mauvais match.
Tu vois qu'il a souffrance, hein.
Non, mais qu'il fasse un mauvais match, qu'il aime pas son entraîneur ou on veut bien, mais mets ça de côté.
Dire non, tu mets ça de côté. Dis-moi, tu n'as pas joué pour des entraîneurs pour qui tu bandais, tu faisais des efforts pas possibles.
Eric,
tu fais abstraction, Eric, un quart de finale à domicile. Tu fais abstraction, la Ligue des Champions. Tu joues pas pour ton entraîneur.
On a fait
joue pas pour ton entraîneur.
On faisait abstraction, nous, tiens.
S'il vous plaît. Et tu joues pas pour ton entraîneur.
Non, mais c'est bien. Ce qu'il y a de bien, c'est que les vieux qui sont les plus jeunes, ils perdent la mémoire avant les vieux qui sont les plus vieux dans cette émission. Ça me fait plaisir, ça. Je suis content, tu vois.
Pas du tout.
Je suis content parce que là, j'ai deux amnésiques avec moi.
Non, mais je ne suis pas amnésique parce que là-dessus, comme tu dis, moi, je suis désolé. Moi. Écoute, il y a des matchs, tu pouvais être mauvais, tout ce que tu veux. Bah, valait mieux pas que ça tombe sur ce genre de rencontre parce que c'est là qu'on attend les grands joueurs. Quart de finale, aller de Ligue des Champions.
C'est pas comme si on l'a pas déjà vu à ce niveau-là dans notre saison.
Et peut-être
des matchs
où
tous les matchs de Ligue des Champions.
Eric, des matchs où j'étais nul, où j'avais pas envie, où je manquais de respect à mes supporters, à qui tu vas, mes partenaires. Il y en a eu plein. Non, mais il y en a a eu plein. Mais c'est pas parce que je l'ai fait que je dois dire aujourd'hui que c'est une bonne chose. J'étais minable quand je l'ai fait à mon époque, de la même façon que Mbappé est minable aujourd'hui.
Sauf que donc je condamne bien sûr Kylian Mbappé de son attitude. J'espère juste qu'il va se rendre compte que ce qu'il a fait hier, c'est inadmissible.
Donc,
et que la semaine prochaine, à Barcelone,
Dimeco,
il nous fasse gagner, parce que là, le problème, c'est qu'il a encore plus de pression sur le match retour.
Ouais, et qu'il sera mardi prochain. Ah, ça y est, bah justement, l'alerte, l'expérience RMC pour le match retour Barcelone-PSG, mardi prochain, le 16 avril. On vous offre le voyage, la nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes RMC Sport, la place pour le match. Vous avez 5 minutes jusqu'à 18h49 pour envoyer PSG au 732-16, PSG au 732-16, et ainsi voir Kylian Mbappé, eh bien, démentir tout ce qui vient d'être dit, aller contre Christophe Dugarry et prouver que c'est un grand joueur qui peut s'investir et aller porter le PSG vers les demi-finales. Messieurs, vous restez là, dans un instant, on fait rentrer l'artiste Julien Cazard et son Cazard enchaîné qui avait placé un micro dans le vestiaire de Luis Enrique après le match. À tout de suite.
RMC, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h50 sur RMC, on est là dans Rotten sans flamme avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugarry, avec Benoît Boutron. Oui, on est encore là, encore une grosse heure après 19h, après le moment de Julien Cazard. On va parler de l'OM. Oui, l'OM, c'est ce soir. Match aller au Stadio de la Luz. Mmh. Eh oui, que connaît bien Eric, la main de Vata. Moi, ouais. Bon, il n'y avait pas main, on ne va même pas dire la main de Vata. Ouais, l'épaule de Vata, il nous l'a dit.
Ouais, ouais.
Écoutez, là, maintenant, on va se détendre avec le moment de Julien Cazard. On y va.
RMC Rotten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Le concombre, compagnon idéal de vos repas, le concombre est frais, diététique et excellent pour la digestion. En salade, cru, en rondelle ou en tzatziki, il enchantera vos papilles. Un conseil toutefois, évitez de vous asseoir dessus.
Bonsoir à toutes et à tous. Il est content, l'autre de son côté. Je le vois, son sourire. Nous sommes le jeudi 11.
Tu demandes à quelqu'un d'enregistrer un truc pareil, c'est ça qui est drôle.
Mais parce que voilà, parce qu'à un moment donné, parce que le Prozac.
Qui est la dame qui fait ça d'ailleurs?
Eh bien, c'est ma copine. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 11 avril 2024 et le PSG n'est toujours pas éliminé de la Ligue des Champions.
On a jamais été aussi proche.
Vas-y, mes principes. Profite, Boutron. Il reste que deux jours à faire ta blague. Mais on sera débarrassé. Tu pourras plus la faire. En préambule de ce journal, je voudrais avoir une pensée pour les Marseillais, figure-toi. Oui. Ah. Qui ont vécu le chaud et le froid dans la même journée, puisqu'ils ont pu voir leur équipe gagner au parc. Et ça, c'est cool. Oui, car je rappelle, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de tout ce qui est le nouveau football, il y a la galaxie Red Bull, on sait, il y a le City Group, et il y a la galaxie OM avec le Barça, Chelsea et le Bayern. Donc si vous êtes un peu observateur au stade, vous voyez les survêtes, les casquettes. Donc voilà. Donc hier, c'est dans la galaxie OM, c'est le Barça qui a gagné. Donc une équipe de la galaxie OM qui a battu le PSG, ça c'est formidable. Mais dans le même temps, ils vivent un véritable scandale, vous en avez parlé ou pas?
Pas encore, on va en parler à 19h.
Scandale des supporters de l'OM qui ont vu leur billet annulé, tout simplement, par le président du Benfica. Annulé.
Dénouement, hein, ça va changer.
Oui, bah, moi, tant que c'est pas fait, tu connais mon. Hein. C'est une véritable honte, je pense qu'à Rotten sans flamme, on est tous solidaires de ces gens qui n'ont rien d'autre dans la vie que l'OM et le RSA. Et c'est pourquoi j'aimerais donner la parole à celui qui les représente le mieux. À travers ses analyses pointues. Je veux bien parler du Spinoza de la gare Saint-Charles, le Schopenhauer de la Castellane, le Tocqueville de la Joliette. Je vais bien sûr parler de Gros Samir.
Ceci est une analyse de Gros Samir, le patron du baby à Marseille.
Oh mon vieux, on organise tous les déplacements, les casse-croûtes, les typhons, les fumis, les chichons. On est déjà dans le car, on a mis leur ville de vie qui pue la morue dans le GPS. Et l'autre façon de frangipane, il a eu le billet, gros. Mais tu te prends pour qui? On va te cuire le cul, manque de respect.
Excusez-moi, le président du club de Lisbonne a décidé ça en réponse au préfet des Bouches-du-Rhône qui a interdit le déplacement des Lisboètes dans une semaine.
Et alors, ça bat les couilles. C'est pas parce que c'est nous qu'on le fait qu'ils ont le droit de le faire. De toute façon, moi je voulais pas y aller dans cette ville de pecto du rez-de-chaussée.
Ah bah alors pour vous, c'est pas grave.
Et si, parce que si j'y vais pas, c'est parce que c'est moi qui décide, gros. C'est comme pour Marcelino. On voulait qu'il parte, mais c'est pas lui de dire qu'il se casse. C'est nous qu'on dit qu'il se casse. Soit il se casse parce qu'on dit qu'il se casse, soit il reste. Mais s'il se casse, c'est qu'on a dit qu'il se casse. C'est un lâche. Il devait se casser quand on a dit qu'il se casse.
On a du mal à comprendre votre logique.
Eh bien, sucez-vous. Alors,
ceci était une analyse de Gros Samir.
Le problème, c'est quand tu parles obligé, à un journaliste parisien qui ne comprend pas. Au bout d'un moment, t'es obligé d'en arriver là. Gros Samir qu'on embrasse.
Oui.
Qu'on embrasse. Oui, le pauvre.
On dit rien,
mais on l'embrasse parce qu'il a eu des soucis avec son resto à Marseille. Le, Le vice-versa. D'ailleurs, le vice-versa, il m'a dit, tu le dis et tu veux, tu me restes le cul tous les soirs. Et jamais tu parles de mon bar. Donc, il a son bar à Bastille. On peut aller au vice-versa, aussi à Paris, parce qu'il se boboïse. Mais oui, mon vieil, okay. Il se boboïse, le gros Samir, tu as vu? Et il y a le bar, 38 rue Keller, vous y venez de ma part. Enfin, non, vous venez pas de ma part.
Il fait une vraie pub, en plus. Hein.
Non, mais oui, 38 rue, ouais, il m'a dit, sinon il m'a dit, je te fais un procès, on t'envoie, okay. On te casse le cul. Moi, j'ai dit, je préfère faire une pub. Mais n'y allez pas de ma part, par contre. Hein. Parce qu'il va cracher dans le verre. Allez, sommaire. Dans cette édition, nous reviendrons sur la défaite du Paris Saint-Germain. Bien entendu, on savait tous que le PSG allait perdre. Jérôme, quand on a vu qui était aligné et le coup d'envoi, on a dit,
mais t'es sceptique.
Moi, je parle pas de la compo du match. Hein. J'ai vu qu'il était éliminé. Aligné
de 7, qui tu parles?
Ah oui, la compo à MC Sport.
Ouais. Monsieur, c'est pas possible, monsieur, c'est pas vrai. Et ils sont complices?
Non.
Le corner d'Ilka Gundogan.
Voilà, donc merci. Qui est donc Jérôme Sillon? On avait dit quoi sur les matchs du PSG, sur les commentaires? On avait dit pas Jérôme Sillon, putain. On demande pas grand chose. Je demande pas Stéphane Guy, n'exagérons rien. Mais
qu'il aille. C'est pas Riron, c'est pas Valladolid.
Non mais qu'il aille commenter City, c'est les beaux matchs, le Real. Ou l'OM, tiens, qui c'est qui commente? C'est lui qui commente? C'est pas lui qui commente l'OM?
Ah bah non,
eh ben c'est non, bah non. Eh ben non, tu penses? Lui, il commente pas l'OM? Non, nous le fous au PSG. Hein, le bon chat noir, il est pour nous.
Mais arrête, il a déjà commenté. Il a commenté le PSG quand c'est l'OM finale.
Mais c'est le Covid, ça compte pas. C'est toi qui le dis, c'est vous les Marseillais, c'est pas une vraie coupe. D'ailleurs, le match d'hier. Oui, si on l'avait gagné, c'est pas une vraie coupe. Hein, parce qu'à Munich, pour eux, c'est une vraie. D'ailleurs, le match d'hier soir était prévisible pour plein de gens. Surtout pour nous qui sommes souvent dans ce genre de match, il faut une analyse. Il y en a un qui a très bien analysé ce match. Écoutez.
Et la chape parisienne dans le marquage. Hein, ça se voit qu'ils ont vraiment bien travaillé les coups de pied arrêtés. Ah. Chacun sait qui doit marquer.
Oui. Le corner d'Ilka Gundogan.
Oh, mais c'est pas possible.
Mais c'est pas possible.
Qu'ils ont bien bossé les coups de pied arrêtés. Là, chacun a son joueur. On n'a pas pris une balle tête. Donc ça, c'est
travailler l'entraînement.
Ah, mais c'est travailler l'entraînement. C'est pour ça que tu peux travailler ce que tu veux avec un âne. Il gagnera pas une course de chevaux. C'est vrai qu'on a senti sur les coups de pied arrêtés qu'on avait bien bossé. Ce qu'on retiendra de ce match, surtout, c'est le merveilleux coup tactique pour finir, celui de Luis Enrique, qu'il avait dit avant. Il avait l'ADN du Barça et il a donné une leçon. Ah oui. À Xavi, ouais. On l'a compris dans l'après-match, dans les vestiaires, dans le débriefing.
Bon, ben les gars, super les qualifs, hein, c'est dans la poche là.
Ah ouais, sérieux?
Et Dembouze, le second degré, souviens-toi.
Ah ouais, bon.
Moi, je suis hyper déçu. Bono. Non, mais là, je l'ai fait exprès, Kitch.
Ah les gars, je n'ai que moi à vous dire bravo, bravo, bravo à tous.
J'ai compris, c'est du second degré.
Ah non, pas du tout. Bravo, tout s'est passé exactement comme il l'imaginait. À quelques détails près. Dans le kit, Xavi.
Je suis pas sûr de comprendre, là.
Mais quelle belle défaite, tranquille, sans trembler. Même si j'ai un peu peur, là, en début de deuxième mi-temps.
Alors là, je suis sûr de pas comprendre.
Déjà, pour commencer, Beraldo, hop du match.
Je sais, j'ai pas très très bon, mais c'est le col du Brésil, du caca-coulotte.
Mais non, c'était parfait, incroyable, tous les matchs. C'était un sans-faute à la ramasse pendant 90 minutes.
Et on aurait quand même mieux fait de faire entrer Danilo.
Non, surtout pas, avec Danilo, vu son jeu de tête, on n'aurait jamais pris le but de Christensen à la fin.
Y'a qu'un du Guronzan, parce que là, j'ai mal au crâne. Hein.
C'est vrai qu'on comprend rien.
Là, tu comprends jamais rien.
C'est vrai aussi.
Mais il dit qu'il est désolé pour les buts. Hein.
Mais faut pas, Didio, c'était génial.
J'aurais dû entrer plus tôt, je les aurais pulvérisés, atomisés. La force était en moi, je les aurais broyés de ma toute puissance. Donnez-moi le mégaphone.
Mais non, toi, à la limite, j'ai regretté ton entrée parce que tellement tu étais énergique. Tu pouvais pas prendre exemple sur Luis. Regarde-le, lui, il joue à la vitesse d'un vétéran du FC Montargis. On dirait qu'il a la mononucléose. Il est nickel. Si on ajoute Asensio complètement paumé devant, lié à la ramasse, Luca perdu arrière-droit pendant 20 minutes. Le coup tactique était parfait et les clous du spectacle. C'est toi, Kiki. Toi, c'est incroyable. Être aussi nul dans un tel match de haut niveau. Mais peu de coachs ont réussi ce coup de génie avec toi avant moi.
Et on peut avoir une explication, là, ou...
Mais c'est l'ADN du Barça, l'explication.
Ah.
C'est quoi l'ADN du Barça? La remontada. Et oui, la remontada. Mais pour la remontada, il faut une montada. Si tu fais pas montada, il n'y a pas besoin de remontada, vous comprenez? Moi, ce que je voulais, c'était les remontader. Et donc, il fallait bien se faire montader. Parce que si c'est nous qu'on les avait montadés, c'est eux qui nous auraient remontadés. Alors que c'est nous, là, qu'on va les montader, parce qu'ils nous ont montadés.
Oui, enfin, on s'est fait surtout démontader, parce qu'ils nous ont bien, bien démontadés. Hein.
Oui, c'est ça. Donc maintenant, on va pouvoir les remonter. Je suis un génie.
C'est drôle parce que c'est la technique qu'avait utilisée Galtier l'an dernier contre le Bayern.
Et vous les aviez remontadés?
Ah non, pas vraiment. Non.
C'est qui, c'est Galtier?
Non, c'est personne. Il coach une équipe du Qatar.
Et moi aussi.
Non, mais lui, c'est une équipe de nuls. Hein.
Et moi aussi. Mais la différence, c'est que votre Galtier n'a pas l'ADN Barça. Alors que moi, oui.
Excusez-moi, je peux vous prendre une mèche de cheveux?
Oui, pourquoi t'es fétichiste?
Non, c'est pour faire un test ADN.
Moi, j'y crois. Il nous reste 4 jours pour y croire.
Bravo, Julien. À tout à l'heure.
RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
À tout à l'heure pour Rotten contre le reste du monde. Et nous, dans un instant, on parle de l'OM. L'OM ce soir sur la pelouse du Benfica. Est-ce que, contrairement à Jérôme Rotten, vous croyez au miracle de la Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille? À tout de suite sur
RMC. RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h03 sur RMC, on est là, on est bien la deuxième heure de Rotten sans flamme. C'est maintenant qu'elle commence et on va parler de l'Olympique de Marseille qui se déplace à Lisbonne là, contre le Benfica dans maintenant à peu près 2 heures. Et oui, on est là avec Benoît Boutron, avec Christophe Dugarry et avec Eric Dimeco. Et si vous avez raté la première heure, on vous le dit tous les soirs, c'est pas bien, elle est déjà disponible en podcast, allez-y. On a été très performants sur l'analyse du match du Paris Saint-Germain.
À 19h45, Rotten contre le reste du monde. Vous pouvez remporter 1h30 de session de padel dans un club Fort Padel. Vous vous inscrivez en envoyant le 32-16, en composant le 32-16 touche 4 ou en envoyant top au 7-32-16. 19h30, le ring des supporters, le premier quart de finale de l'histoire pour le LOSC. Premier quart de finale en Coupe d'Europe. C'est la Ligue Europa Conférence, Lille en déplacement à Aston Villa. Les Lillois sont-ils armés pour tenir tête aux Anglais? Mais messieurs, on y va sur l'OM. Marseille qui espère bien retrouver la lumière.
C'est terminé ici au Vélodrome avec ce score de 4-0.
Non mais Jeannot là maintenant on va voir les hommes.
Ça va faire mal à Jérôme, on va être champion.
C'est terminé. La victoire très importante pour Rennes face à l'Olympique de Marseille.
Mais il est fou ce mec.
C'est terminé avec la victoire du Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome.
Donne-lui une gifle pour moi. Tu dis bien que c'est moi qui lui ai mis.
C'est terminé. L'Olympique de Marseille confirme sa descente aux enfers. 4e défaite consécutive.
C'est une escroquerie. Et vite, vite, vite.
Non.
Monsieur Mangano n'a pas vu ou n'a pas voulu voir.
A levé toutes les cordes là, ou tous les câbles qui pourraient servir de potence là. Je suis au bord du.
Quart de finale de Ligue Europa.
Au bord du suicide.
Ouais, les spéciales des Aïk. Quart de finale ce soir, 21h. Benfica OM au stade de la Loue. C'est un rendez-vous qui rappelle forcément des souvenirs douloureux. L'épisode de la main de Vata, on en a beaucoup fait en début de semaine. Demi-retour de Coupe des Clubs Champions en 90. Podcast des retrouvailles entre Eric et Vata, 34 ans après, disponible sur toutes les plateformes et sur les applis d'RMC. Régalez-vous, c'était lundi. Il y a un long format d'ailleurs à retrouver sur RMC Sport avec les réactions de Gérard Gilly, notamment entraîneur de l'OM à l'époque, donc sur rmcsport.fr. Marseille va mal, les gars. Effectif amoindri. 4 défaites d'affilée, toutes compètes confondues. Marseille, 8e de Ligue 1, qui n'a plus que la Ligue Europa pour sauver sa saison. Marseille, qui en Ligue 1, on le rappelle, est la pire équipe du championnat à l'extérieur. Alors ce soir, Rotten se chauffe contre ceux qui croient au miracle de la Coupe d'Europe pour l'OM. Avant d'en débattre, on va retrouver Florent Germain, qui est bien à Lisbonne. Salut Flo.
Salut Benoît.
Salut
à tous.
Avec la
salut
bonne Jérôme. Nouvelle de la journée, cette salut issue Flo. Favorable pour les supporters salut, marseillais qui ont fait le déplacement.
Oui, et d'ailleurs, les ultras, donc le CU84, l'un des groupes de supporters marseillais, entre à l'instant dans le stade, sous nos yeux là, dans ce magnifique et gigantesque. J'imagine pas ce que c'était Eric en 90 là, quand il était encore plus impressionnant.
Il y avait 120 000 personnes. Ouais.
120 000 personnes, mais déjà il est beau, il est magnifique. Et donc les Marseillais, les supporters olympiens entrent dans le stade. Effectivement, ça a été la bonne nouvelle du début d'après-midi. Il y a eu des tractations entre l'UEFA et l'OM avec le ministère de l'Intérieur, parce qu'il faut bien rappeler que ce sont les autorités françaises, ouais. Et Gérald Darmanin d'ailleurs, hein, le ministre de l'Intérieur qui avait la clé, puisque ils ont décidé finalement d'autoriser les supporters portugais pour le match retour jeudi prochain à Marseille. Et donc tout de suite, effet de réciprocité, les portes du stade s'ouvraient et donc on annonçait que Benfica redonnait quelque part les billets du match aux supporters marseillais qui seront environ 2000. Alors en chemin, on a perdu quelques supporters parce que malheureusement certains se sont découragés et ont annulé au dernier moment s'ils pouvaient leur déplacement en voiture ou une nuit d'hôtel, enfin bref. Donc malheureusement, il y aura que 2000 environ supporters marseillais Marseillais. Mais ils seront là. Pablo Longoria d'ailleurs allé à leur rencontre dans l'après-midi. Il avait menacé hier de ne pas aller au stade si les supporters n'étaient pas autorisés à y rentrer. Ouais. Ils sont là et ils commencent à pénétrer dans ce magnifique Estadio da Luz.
Merci Florent. Avant de débattre justement du contexte sportif, un mot sur ce contexte de supporters. Eric, c'est quand même une histoire, une situation ubuesque qu'on a vécue là, avec ces supporters qui partent, ils ne savent pas s'ils peuvent rentrer dans le stade. Ce sont les autorités françaises qui ont la clé de cette situation. C'était fou quand même tout ça.
Ouais, bon, après ça finit bien, mais c'est vrai que le problème, c'est que les Français ne voulaient pas recevoir les Portugais, donc eux, ils ont fait pareil. Hein. Mmh. Voilà, vous ne voulez pas nous recevoir, vous ne venez pas. Donc, sauf que les billets étaient vendus, les mecs avaient pris les voyages, et il valait mieux que ça finisse comme ça, parce que j'ose pas imaginer, alors je ne sais pas combien il y a de Marseillais à Lisbonne.
S'ils ne pouvaient pas rentrer dans le stade.
Mais voilà. Mmh. Ça aurait pu être sympathique dans un premier étape, parce qu'ils voulaient montrer qu'ils avaient de bonnes intentions.
Environ 2000, d'après Florent Germain.
Si ils n'étaient pas rentrés, selon comment ça tourne, bon, au moins là.
Ah, au moins on est,
ils sont recadrés, et puis j'espère que tout le monde va se régaler.
Exactement. Donc pour parler un peu plus du match, Benoît, Eric et Duga.
Toi, t'y crois pas au miracle de la Coupe d'Europe?
En fait, j'ai envie d'y croire parce que ça reste un club français qui nous représente et on a envie de vivre des émotions et ça fait partie des belles affiches européennes. Et on va pas. J'ai hâte d'être à 21h et de regarder le match devant ma télé. Mais maintenant où j'ai du mal.
Ouais, mets-toi bien devant parce que derrière tu verras rien.
Ce que je veux te dire, Eric, c'est que j'ai du mal à y croire parce que ces joueurs-là m'ont jamais transcendé, m'ont jamais donné de la sécurité sur leur niveau. Quand le niveau s'élève, au contraire, ça fait pchit très souvent de la plupart des joueurs de l'Olympique de Marseille. Je suis désolé, quand je vois l'équipe qui peut être alignée, alors je sais pas si le journal L'Équipe a raison sur l'équipe qui peut être alignée par Jean-Louis Gasset ce soir, mais quand tu vois que Harit est annoncé plus dans le milieu de terrain... Bon, déjà, quand il joue dans le secteur un peu plus offensif, il tire pas son épingle de jeu.
Il faut faire gaffe au combo.
Ce qu'on va faire, Jérôme, on va aller voir Florent Germain, qui a plutôt une tendance un peu plus affinée à quelques heures du coup d'envoi, moins de 2 heures, Flo.
Écoute, l'athlé c'était Chancel Bemba et qui a priori a fait un entraînement plutôt normal et plutôt rassurant hier soir. Donc ça a coupé quand tu parlais de la compo, Jérôme. J'ai pas tout entendu.
Non, mais en fait,
qu'est-ce qui t'inquiétait
le plus dans le milieu de terrain?
Non, en fait,
c'est une forte probabilité que Amin Harit y soit. Hein. Merlin, Mbemba sur les côtés, Balerdi et Gigot dans l'axe. Il faut dire qu'il y a pas trop le choix du côté de l'OM. Kondogbia, Verretou et Harit. Possiblement au milieu de terrain, voire Asdin Unai, ce qui ferait dire que Harit jouera un cran plus haut. Et puis devant, on a Aubameyang qui sera entouré soit de Mumbanya, soit de Iliman Ndiaye. Voilà, il n'y a pas trop le choix malheureusement pour Jean-Louis Gasset.
Ouais, non, mais c'est pour ça.
Si tu veux, on voit les matchs quand le niveau s'élève. Dernièrement, ils ont eu des adversaires un peu plus forts qu'ils l'ont eu au début de Jean-Louis Gasset. Et on a vu ce que donnait l'image de l'Olympique de Marseille. Du moins, tu as pris une grosse claque à Lille, qui était un match très très important, qui ressemble un peu à ce que l'OM va vivre ce soir, c'est-à-dire c'était un match couperet pour la suite de l'OM dans le championnat, et même Lille, c'était un match important pour eux parce qu'ils écartaient un candidat à la Ligue des Champions. Ça a été fait, ils l'ont fait de belle manière, ils n'ont pas existé défensivement. Alors moi, je veux bien qu'on me dise que Mbemba, c'est important qu'il revienne sur le poste de latéral droit. Oui, d'accord, mais excuse-moi de penser que la charnière elle est catastrophique. Alors Balerdi, il fait pas des mauvais matchs, mais il est pas aidé. Gigot, bien sûr qu'il représente l'OM et tout ça, mais franchement il est pas bon. Le milieu de terrain, j'ai pas l'impression que il te donne de la sécurité déjà défensivement, mais aussi offensivement dans la créativité. Il y a tellement de manques. Donc moi je crois pas une seule seconde à ce qu'il puisse rivaliser face à une équipe qui est certes pas la meilleure équipe de tous les temps de Benfica, mais quand même il y a des joueurs de grande qualité et je pense que Marseille ça va être très très compliqué de se transcender ce soir.
Eric,
écoute, quand on regarde un petit peu le parcours, que ce soit en championnat ou en Ligue Europa à l'extérieur de l'OM cette année, il y a de quoi avoir mal à la tête avant d'aborder ce match-là.
Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de contre-performances, il y a même une branlée dernièrement. Je suis pas non plus très très optimiste.
Tu crois à cette magie de la Coupe d'Europe, il peut se passer quelque chose?
Oui, alors attention. Magie, l'équipe est moyenne. Quand tu fais la magie, de moyenne, tu passes à moyen bon, hein, tu passes pas à très bon. Hein.
On est vrai magicien.
Par contre, Juste mon espoir en réalité, c'est puisqu'il y a deux confrontations et le premier est à l'extérieur, donc un domaine où Marseille est très moyen cette année. Je me dis, ben, j'espère juste qu'ils vont pas hypothéquer leur chance dès ce soir. Et voilà, ouais. C'est-à-dire arriver à faire un match solide, rigoureux. Bon, ça prend beaucoup de buts, donc est-ce que le retour des mêmes mains? Alors moi, je suis toujours désolé de pas avoir cette défense à 3 parce que finalement, malgré tout, que ce soit contre Donetsk ou contre, c'est mais bon, allez.
À un moment surtout donné, Mbemba est très bon dans ce poste-là.
Voilà, ouais, et puis surtout, ils sont un super coach. En plus,
à un moment donné, si tous les coachs font comme ça, c'est sûrement eux qui ont raison, mais bon, j'ai un doute. Voilà, j'espère que les chances de la qualification ne seront pas hypothéquées ce soir. Donc, ça veut dire rester à portée, même si ça tourne vinaigre, et puis espérer que justement, au Stade Vélodrome, avec la folie, ce qui s'est passé contre Villarreal, même si je le répète, contre Villarreal, si Marcelino y met Capoue et Sorloth sur le terrain au Stade Vélodrome, c'est pas le même match. Hein. Ouais, il nous a fait petit cadeau ce soir-là. On en a profité. Benfica, c'est pas le Benfica de la décennie non plus. Ouais. Voilà, donc le seul espoir, tu vas le chercher dans les rêves presque, tu vois, ouais. Ou alors en te disant bon, mais on va serrer les fesses ce soir pour pas prendre une rouste
du gars. Toi, tu es un peu plus optimiste.
Non, pas du tout. Je suis très inquiet pour l'OM parce que j'ai l'impression qu'ils arrivent au bout là, de l'histoire, les mecs sont épuisés, ils en ont la casquette. Voilà, ils sont incapables de hisser leur niveau de jeu, à mon avis, sur un match aussi important. Donc, je suis très inquiet. Ça serait une énorme surprise que je souhaite, bien évidemment, du fond du cœur, mais je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. En même temps, c'est la seule compétition qui leur reste. Donc voilà, s'il y a un exploit à faire, sincèrement, c'est ce soir et la semaine prochaine. Donc, on va dire que leur saison se joue sur ces deux matchs-là. Donc,
pas la saison. Je pense que c'est la fin de saison se joue là. Parce que ça veut dire que pendant un mois, tu as encore d'espoir parce qu'il y a une demi-finale, tout le monde va rêver, tout le monde va parler de ça, ça va être la folie. Mais tu sauves pas ta saison sur ce match-là parce que si tu perds contre Liverpool.
Après, ce que je veux dire, c'est les deux seuls matchs encore avec intérêt.
Oui.
Et tu crois qu'il reste après.
J'entends ce que tu dis et bien sûr qu'on peut avoir des motifs, essayer d'avoir des motifs d'espoir, mais n'empêche que cette équipe elle a souvent été, malheureusement pour elle, et peut-être qu'elle a trop subi ça, et c'est pour ça que mentalement ils ont du mal à avoir du répondant, mais quand t'es sous pression, ils nous ont pas rassurés.
Ah non, mais moi je suis très inquiet, ouais, je vois plus 3-0, 4-1 ou un truc comme ça que Marseille.
Mais vous survendez pas un peu Benfica?
Bah justement, tu sais ce qu'on va faire, Eric?
Moi je suis très chaud,
dans une minute.
Eux aussi, c'est chaud.
Et on revient dans une minute. Nico Villas sera avec nous.
Je les ai vus contre le Sporting, c'est pas si mal que ça.
En revanche, on les a vus contre Toulouse et là, ça avait été difficile.
C'était il y a longtemps.
Si vous prenez les matchs qui vous arrangent, c'était il y a 8 mois. Ça a évolué depuis.
Moi, je l'ai vu le week-end dernier contre le Sporting.
Oui, c'est ça. T'as vu le match?
Oui, j'ai regardé.
Vraiment?
À un moment donné, les trop gros mensonges, ça s'attarde.
J'ai du mal à croire. On en parle dans un instant avec Nico Villas et supporter marseillais. On vous attend en 32.
RMC, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h07 sur RMC, on continue nos débats dans Rotten sans flamme avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco, avec Benoît Boutron. On est là encore une grosse demi-heure. Restez bien avec nous, il y aura le quiz de Julien Cazard en fin d'émission pour vous faire gagner un super cadeau. Mais là, on continue à parler de l'avant-match de l'Olympique de Marseille. Oui, un match crucial pour l'OM.
Est-ce que vous croyez au miracle de la Coupe d'Europe pour l'OM? Dans un instant, on va accueillir Alexandre, supporter marseillais qui a composé le 32-16. Mais Nico Villas, notre spécialiste du foot portugais, nous rejoint.
Nico. C'est Radio Monte Marseille là ce soir. Duga, Dimeco,
Jérôme.
Ça comment? Ah oui, attends, refais-moi le Todobam.
Todobam.
Non. On dirait Walid Acharchour. Non mais sérieux.
Alors comment on dit comme il faut?
Todobam.
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 Avec l'accent du Brésil, Duga.
Est-ce que ça vaut Benfica?
Alors c'est dur de répondre à cette question cette saison. C'est instable. Si tu me parles du Benfica de début d'année qui a joué contre Toulouse, qui aurait dû se faire sortir sur les deux matchs, mais tous les jours, qui a galéré contre les Rangers au tour suivant, qui a lâché des points en championnat à ce moment-là aussi, je te dis Marseille gagne tous les jours. Si tu me parles du Benfica qui l'avait un peu mieux, même s'il vient de perdre face au Sporting, ils n'ont pas fait un mauvais match. Ils avaient fait match
pas mal, c'était pas mal.
Ouais, ils ont fait un bon match. Hein. Mais bon là, en gros, ils ont perdu le championnat. Ils ont 4 points de retard maintenant. Voilà. Ouais. Juste avant, ils avaient joué face à ce même Sporting en demi-finale retour de coupe. Ils avaient fait match nul, mais ils avaient perdu le match aller. Donc là aussi, ils ont été sortis. Mais ça va quand même un peu mieux. Après, il y a beaucoup de similitudes à l'instant T, à savoir à Marseille.
Avec l'OM.
Ouais. Avec l'OM, à savoir.
Ah ouais, vous avez survendu, les gars, je vous l'avais dit.
À savoir à Marseille. Croit,
excuse-moi d'être assuré plus du niveau de certains joueurs de Benfica.
On cherche le successeur de Gasset. Au Benfica, il se dit que Schmidt devrait partir. Il est encore sous contrat, mais ils vont faire une saison blanche. C'est toujours mal vécu par ce genre de club. Donc voilà, il y a pas mal d'incertitudes. Il y a certains postes qui vont pas non plus au Benfica. C'est-à-dire, on n'a toujours pas trouvé le neuf, celui qui doit remplacer Gonçalo Ramos. Ouais. On n'a pas trouvé celui qui doit remplacer Grimaldo, qui cartonne avec le Bayer Leverkusen au poste de latéral gauche. Du coup, Schmidt bricole un peu. Ils ont recruté des latéraux qui font pas le taf pour l'instant. C'est Horsnes qui est milieu de terrain, qui est très bon d'ailleurs au poste de latéral gauche, le Norvégien, mais qui du coup joue pas là où il pourrait être encore meilleur.
C'est qui le meilleur joueur? C'est Di Maria?
Di Maria, oui. C'est la star. Après, moi, Horsnes, je trouve que c'est un joueur fantastique, fabuleux, très polyvalent. Rafa Silva fait la saison de sa vie. Il est en fin de contrat. Mm-hmm. Di Maria aussi, d'ailleurs. Otamendi, qui est quand même un taulier dans cette équipe. Non, il y a des bons.
Neves au milieu, c'est pas mal.
Alors, j'allais y venir. Alors, la pépite, enfin, les deux pépites, il y en a une qu'on connaissait un peu, c'est Antonio Silva, le défenseur central. Et Joan Neves, Joan Neves.
Attendez, je suis pas comme Eric, moi, je travaille mes fiches. Je suis des émissions à préparer. Faites gaffe, en sortant du studio, il y a la police qui l'attend, Julien. Je vous le dis de suite.
Les gars, ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux avec qui il a joué.
Vous êtes choqués que je m'intéresse au match qui oppose le premier contre le deuxième, pour le premier du championnat portugais. C'est un match important. Moi, je suis surpris que vous l'ayez pas regardez, les gars, attendez, c'est un problème. Attendez, c'est bon. Après, vous faites votre métier comme vous avez envie. Vous faites votre métier comme vous avez été joueur, hein, voilà.
Attends, mais. Bon, donc est-ce que ça vous rassure ce que vous dit Nico là, Jérôme?
Non. Moi, je te dis, alors,
je cherche pas à rassurer.
T'as raison.
Là, ils ont fait deux quarts de finale de Ligue des Champions sur les dernières saisons, même s'il y a des joueurs importants qui sont partis. Enfin, c'est une équipe qui
est supérieure à l'OM.
Franchement, sur le papier, il y a des joueurs là qu'on parlait de
tout malin,
d'avoir une bonne surprise. Tu vois, de le fait que la magie de la Coupe d'Europe peut te transcender tout ça.
Le miracle.
Excuse-moi de penser en effet qu'il y a des lacunes du côté de Benfica, et on l'a vu contre Toulouse par exemple, mais moi je pense que contre Toulouse il y a aussi le fait d'être supérieur, de se sentir supérieur à un club.
Là je t'assure que même sur les autres matchs ils étaient à la rue.
Non mais c'est pour ça. Non mais maintenant ça peut arriver du côté de Benfica beaucoup plus. J'ai des certitudes avec certains joueurs. Il y a des joueurs qui peuvent se sublimer, et on l'a déjà vu. Il y a des champions du monde à côté de Benfica. Il y a des joueurs qui sont en équipe nationale du Portugal. Tu vois, qui peuvent apporter des choses. Il y a de la jeunesse aussi. Ça peut être surprenant. Excuse-moi de trouver beaucoup plus de qualité dans l'effectif de Benfica.
Mais ça, on est d'accord. Mais non, mais on est d'accord. On est d'accord, Jérôme. Sauf que il faut pas trop survendre Benfica parce que cette année ils ont été en difficulté une bonne partie de la saison, quoi. Voilà, c'est pas une saison pleine pour eux.
Ils ont trois défaites, ils ont pas non plus
c'est pas non plus
il a travaillé ses fiches là.
Mais les gars, après faut pas vous étonner si vous êtes au moins payé.
Après du gars,
ils ont travaillé comme ça, mais faut pas s'étonner après.
T'as raison du gars, ils ont deux défaites à domicile cette saison, mais les deux c'était en Coupe d'Europe. Donc tu vois, c'est pour ça que je te dis, les matchs les moins réussis, c'est ceux finalement qui ont été le plus vus, puisque c'était les matchs européens pour le Benfica.
Juste, Nico, on peut demander à du gars contre qui a perdu Benfica.
Oui.
Non, mais n'allez pas trop loin non plus.
Non, mais puisque tu as bossé. Mais parce que tu as bossé tes fiches.
Je sais que c'est la Real Sociedad.
Et du gars, c'est qui le meilleur buteur de Benfica cette saison, du coup?
Non, je sais pas.
Je viens de le dire. C'est Rafa. Bravo, du gars. Juste un tout petit truc, parce que pour paraphraser ce que disait Jean-Michel hier quand il faisait l'analyse de la défaite de Paris. Hier, on a vu qu'il y avait une diff à deux postes clés. Comme il disait, il invente rien. Que ce soit gardien et avant-centre. Et le Benfica cette saison, surtout au poste d'avant-centre, il est alors Cabral. Franchement, il est pas bon. Je pense qu'il va être titulaire ce soir. Marcos Leonardo, qui arrive au mercato d'hiver, il est pas encore adapté. Et finalement, Rafa Silva, le meilleur buteur, mais c'est pas un vrai avant-centre. Et au poste de gardien, Trubin. Il a eu des débuts compliqués, ça allait mieux, et là, il est re-rentré dans le dur. Il a du mal à s'imposer. D'ailleurs, il vient de perdre sa place en équipe d'Ukraine, c'était lui le titulaire. Ouais. Et c'est Lounine du Real qui est passé devant. Donc, il y a aussi, il y a des postes importants, qui comptent en plus beaucoup dans ce sport. Ouais. Et pour lequel le Benfica a du mal vraiment à être stable là aussi. Donc,
Demandons l'avis des supporters marseillais, notamment Alexandre qui a compris.
Salut Alexandre.
Bon, alors, comment t'appréhendes le match de ce soir?
Très honnêtement, moi, j'ai pas tellement peur. J'ai pas plus d'appréhension que ça. Oui, Benfica, c'est une institution européenne. Ça, il y a pas de doute. Il y a qu'à voir les trophées qu'ils ont pu gagner tout au long de leur parcours européen, etc. Il n'y a pas photo entre eux et nous. C'est une référence au Portugal. On a beaucoup de mal contre les clubs portugais, nous, Français. Mais d'un autre côté, au vu des matchs du Benfica, j'ai pas tellement peur que ça pour l'Olympique de Marseille.
Ah, mais oui, mais tu sais que
et
Benfica,
au vu des matchs de Marseille, voilà, t'es rassuré. Ah, ouais.
Tu sais que Benfica, ils ont regardé les matchs à l'extérieur de l'OM aussi. Hein.
Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais ils ont pu voir aussi qu'en Europe, moi pour moi, on n'affiche pas du tout le même visage, que ce soit en Europe ou en Ligue 1. Je pense que l'Europe transcende un petit peu les joueurs.
Ah ouais. Si jusqu'à là, ça transcende. Ah ouais.
Mais là où la raison, Alexandre, c'est qu'un joueur comme Aubameyang est très performant en Ligue Europa.
Arrêtez vos bêtises.
Aubameyang, dans un club comme Marseille qui est en difficulté, que ce soit en Europe ou en Ligue 1, à l'heure actuelle, c'est meilleur buteur d'Europa League.
Ah oui.
Et c'est pas négligeable non plus au vu des joueurs qu'il peut y avoir en Europa League à l'heure actuelle.
Ouais, mais le problème après, Alexandre, c'est que si Aubame il en met un et que le Benfica en met trois, tu vois.
Bien sûr, il est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, mais justement, c'est aux joueurs à fort caractère. On a un Aubameyang qui réussit beaucoup en Europe. On a un Mbemba qui a un fort caractère, qui est un meneur d'hommes, qui doit aussi sortir un petit peu la tête de l'eau et sortir la tête de ses coéquipiers par la même occasion. Il faut vraiment que les personnes, les piliers entre guillemets de cette équipe prennent leur responsabilité.
Je suis d'accord avec ton analyse. Juste, il parle de Bemba. Bemba, vous savez qu'il a joué à Porto. Moi, si j'avais un petit billet à mettre juste pour rigoler un soir, je mets le but de Bemba. C'est l'équipe contre qui il a plus marqué en carrière, c'est le Benfica. Ça fait longtemps qu'il a pas marqué.
Il peut y avoir des signes, mais pour répondre à Alexandre. Alexandre, j'entends ce que tu dis sur le fait que Aubameyang, il a des bonnes stats en Coupe d'Europe, meilleur buteur que Mbemba, il peut emmener les autres et tout ça. Mais après, c'est juste un problème de pied, en fait, les gars. C'est juste un problème de technique. Technique, le football, c'est pas que dans la tête, ça se serait. Si t'avais plus envie que l'adversaire et ça suffisait pour être au rendez-vous d'un quart de finale d'Europa League à Benfica, ça se serait. Encore une fois, moi, je parle de pied, de niveau de joueur. Écoute, à part Aubameyang, en effet, qui marque des buts, les autres, où sont les références des joueurs de l'Olympique de Marseille? Où elles sont? Expliquez-moi comment on peut être rassuré par Merlin. Expliquez-moi qu'on peut être rassuré par Gigot. Kondogbia, c'est peut-être le seul qui fait pas une grande saison, et à chaque fois dès qu'il doit le sortir à l'heure de jeu, c'est pour faire entrer Gueye par exemple, tu vois. Donc ça veut dire que Gasset, il est par moment un petit peu déçu du rôle de Kondogbia. Harit, créatif, Harit, Veretout, non mais Unai, pour marquer des buts, Ndiaye. Non mais les gars, franchement, si là on n'est pas inquiet, alors
il nous a plombé le moral.
Non mais bon, bien sûr qu'on peut être inquiet. Après, j'attends d'être surpris.
Merci.
J'attends
Alexandre,
que ça d'être surpris.
Et
ça fait 8 mois que j'attends. Hein.
Merci à Nico Villas. L'After Live ce soir dès 20h. Flan Germain au stade de la Lousse. Mais t'es pour qui?
Hein?
T'es pour qui?
Bah, tu le sais très bien pour qui je suis. Ah, je suis pour Vata, moi.
Est-ce que tu veux garder Dugas du coup jusqu'à 23h vu que c'est un spécialiste du foot portugais?
Ah oui,
c'est...
non d'ailleurs.
Oui, oui. Je peux pas, j'ai piscine.
C'est pas grave. Voilà. Préparez, monsieur Dugarry. Mais on va faire un podcast au foot du Portugal. Tu peux venir avec nous, Dugarry. Voilà, au début, tu diras tout de même. Tout de même.
Allez, merci Nico, à tout à l'heure. Allez, on revient dans un instant. On parle du troisième club français toujours engagé en Coupe d'Europe. La Ligue Europa Conférence, le LOSC, premier quart de son histoire. Est-il assez armé pour tenir tête à Aston Villa? Tout de suite sur
RMC. RMC, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h31 sur RMC, la dernière demi-heure de Roten sans flamme, de ce Roten sans flamme exceptionnel. Oui, c'est mode Coupe d'Europe, mode Ligue des Champions, le débrief, mode Europa League et Conference League, bien sûr, ce soir avec Lille et Marseille. On est là avec Benoît Boutron, on est là avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco qui... Ouais. Qui est pas bien. Eric, il commence à stresser.
Comment ça, il est pas bien?
Je le sens plutôt détendu.
Ah si, Nico Villas, la venue de Nico t'a fait du mal, Eric?
Non, au contraire, puisque moi, j'ai contrairement à Dugas, j'ai pas regardé le match du week-end dernier, mais j'avais regardé ceux d'avant, et il m'avait pas inquiété, moi, le Benfica.
C'est bon. Ce qu'on va faire, Eric, c'est ce qu'on va faire. J'ai une requête qu'on va faire à Julien Cazard pour le quiz. Peut-être une spéciale Benfica pour tester Dugas, tu vois.
Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben sur cette année, oui, non. Il est spécial le championnat portugais de cette année.
Bien sûr, voilà.
Là, normalement, Dugan va gagner.
Ah bah oui,
normalement.
Bah,
ouais.
C'est fou ce que vous êtes jaloux comme ça, vous êtes mauvais. C'est...
Mais on est toujours jaloux des bons élèves.
Ben oui, c'est ça, exactement.
C'est l'histoire de la vie, ça.
Ce qui est dingue, c'est de bosser autant le jour où il est à la retraite.
En plus, ce que je comprends pas, Eric, c'est que tu défends les mecs qui se sont mal comportés sur un terrain et les génies comme moi, tu les encenses pas.
Parce qu'on est jaloux des génies.
T'as défendu Mbappé et tu m'attaques à moi.
C'est jaloux des génies, tu le sais.
Je rappelle le cadeau, 1h30 de session de padel dans un club fort padel pour vous inscrire 32-16 touche 4 ou top au 7-32-16. On parle enfin du LOSC, soirée historique pour les Lillois.
RMC, Rotten sans flamme.
Le ring des supporters.
C'est le premier quart de finale de Coupe d'Europe dans l'histoire du club nordiste. Lille défie Aston Villa, le cinquième de Première Ligue, le favori de la compétition, donc cette Ligue Europa Conférence. Une équipe lilloise qui marche bien d'ailleurs actuellement en Ligue 1. Et on a envoyé Jean Baumel à Birmingham, là, une des terres d'exploit de Christophe Dugarry.
Ah, bah bien sûr.
Ah bah oui.
Comment ça, il fait pour manger là-bas?
Parle de moi, ils vont te laisser rentrer gratuit.
Et comment il fait pour manger?
C'est ce que j'ai fait en premier, Dugas.
Est-ce qu'il y a des maillots Dugarry encore? C'est possible.
Il y en a partout. Il y a un portrait géant sur un immeuble, non? Si je me souviens bien, à l'entrée de Birmingham.
Non,
j'ai cru voir Eric parce qu'il y avait un petit concert. C'est bien fait, la fan zone. Il y a toujours des concerts de rock avant. C'est incroyable.
Tu l'as vu, la street Dugarry?
La street.
Non, mais à la piscine municipale, aux toilettes. Il y a mon portrait dans les toilettes.
Sur les briques.
Et comment t'as fait pour manger alors ce midi? Parce que bon,
c'est dur.
J'ai fait du classique.
Ah ouais, d'accord.
Djibo, est-ce qu'on a une tendance pour la combo lilloise de ce soir?
Écoute, il y a des petites interrogations parce que Lens, tu le disais, hein, ça marche bien en ce moment. Lille marche très bien en ce moment. Justement, parce que je voulais parler du derby, parce qu'ils ont tapé, les Lensois net et sans bavure il y a 10 jours. Ils ont récidivé la semaine dernière contre Marseille, donc ils ont écarté entre guillemets deux concurrents pour les places en Ligue des Champions. Ils sont sur 7 matchs sans défaite. Et voilà, la seule grosse équipe qui les a battus cette année en championnat, c'est le Paris Saint-Germain. Puisqu'on faut le rappeler, ils ont battu Monaco. Et puis, il y a eu des défaites. On se dit comment ils ont fait Lille pour être battus par Lorient, Strasbourg, Reims, Toulouse. Mais voilà, sinon, ils seraient largement deuxième du championnat. Et là, ils sont quatrième. Donc, au niveau de la compo, c'est en défense centrale. Comme il a alterné entre Lens et Marseille, alors qu'on peut dire qu'il a pu mettre la même équipe victorieuse contre les Sang et Or, il a changé la sortie Diakité. Il a mis Alexandro. Et il a sorti Goodmanson, qui était bon contre Lens, mais il a mis Cabella, qui était très bon aussi. Donc, pour le reste, Zegrovra sera là, Jonathan David, Haraldsson, qui est venu en conf de presse d'ailleurs hier, Benjamin André, Ben Taleb, Ismaili, puis Thiago Santos et Chevalier. Voilà, et Yoro, bien sûr. Mais ma petite interrogation, c'est plus sur le côté gauche et dans l'axe de la défense.
Bon, alors à cette question qu'on se pose ce soir, le LOSC est-il assez armé pour tenir tête aux Anglais? Eh bien, c'est Eric qui va monter sur le ring des supporters.
Salut Rico.
Ouais, bonsoir à tous.
Salut Eric.
Bon, salut Eric. T'es prêt pour vivre un premier quart de finale de la Coupe d'Europe à Lille?
En terrasse avec une pinte. Je salue Naïm, mon VTC qui m'a déposé parce que quand on boit, on conduit pas.
Eh, bravo.
Bravo.
Et puis voilà quoi, on va tout donner. On va essayer de se faire entendre jusque Birmingham.
Est-ce que le LOSC est assez armé pour résister ce soir, Eric?
Bah, sincèrement, je pense que oui. Alors, je pense qu'Aston Villa c'est très au-dessus sur plein de plans et tout ça. Mais en fait, je trouve que le groupe il a une sérénité, il dégage une expérience. Quand on prend des buts, on panique plus. On a moins de phases de trous. Lille, ce qui est dangereux, c'était les entames de match. On a une période à l'extérieur qui n'était pas très très bonne là, en sortie de l'hiver. Et là, j'ai l'impression que ça va mieux. Donc plus de certitude. Lucas Chevalier qui peut sauver la maison en cas de quand on prend des déferlantes. Et on n'est jamais à l'abri d'un Edon Zegrova, un Jonathan David qui met un but de Charot. Donc moi, je suis plutôt confiant. Je suis très confiant pour Lille et j'espère qu'on va aller faire quelque chose là-bas parce que pour nous, c'est c'est déjà historique en fait. C'est un match important.
Ouais. Non, mais là où t'as raison, je pense qu'il faut pas minimiser les performances de Lille. Lille est une très belle équipe collectivement. Franchement, c'est bien huilé avec un entraîneur qui tous les joueurs adhèrent. On le voit très bien. Et ils font pas cette série là par hasard. Les derniers gros matchs de Lille sont performants. Je parle pas de la réception, la victoire contre Rennes parce que celle-là c'est à l'arrache. Du moins, c'est pas la victoire
victoire, c'est match nul, revenu à la fin. Mais la victoire contre Lens et surtout la victoire contre Marseille doit les rassurer avant ce déplacement d'Angleterre. Ils vont jouer une équipe en pleine forme, ça c'est sûr. Aston Villa.
C'est le quatrième de Ligue 1, c'est le cinquième de Première Ligue.
Oui, mais bon,
la surprise de la saison Première Ligue.
Alors après, il y a l'engagement là-bas et ça peut être surprenant pour certains Lillois, ça c'est sûr, parce qu'ils vont le découvrir. Mais une fois que tu arrives à surpasser ça, à surmonter ça, très honnêtement, offensivement, ils vont poser des problèmes à Aston Villa. Donc j'espère que là j'y crois un peu plus, tu vois, sur le match de Lille que Marseille tout à l'heure.
Ah, tu crois un peu plus en Lille qu'en l'OM.
Ouais, je pense.
Pourtant, au niveau d'Aston Villa, il est peut-être supérieur.
Oui, c'est vrai, c'est
peut-être,
vrai.
Peut-être, bah, j'ai dit peut-être.
Eric, t'es confiant, toi, pour les Lillois?
Oui, parce qu'ils sont dans une bonne passe. On voit vraiment une équipe qui a progressé depuis le début de la saison. Donc, ils y vont dans de bonnes conditions. Après, Aston Villa, quand même, quand tu es dans les 5 de Première Ligue, ça veut dire que tu es une équipe performante.
Ouais, voilà.
Et qui a l'habitude, en plus, de mettre du niveau. De l'impact, ça va être un vrai test pour les Lillois. Et d'ailleurs, ils vont un peu se jauger. Hein. Ça va nous permettre même de, bon, chaque journée de Ligue des Champions, on juge un peu le niveau de notre championnat. Mais là, ça va être intéressant parce que c'est deux équipes en forme. Parce que des fois, il n'y a pas toujours les bonnes formes des deux côtés, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Ben là, on va voir où en est Lille. Mais écoute, déjà, ils vont s'éclater. Ça va être un bon match à jouer parce que c'est un bel adversaire. Et là, pareil. Le but du jeu, c'est de rester en vie pour le match retour.
Ouais, c'est tout.
Avant d'entendre Duga, la confirmation de la compo lilloise avec Jean Baumel.
Ouais, donc ça sera Diakité en défense centrale avec Yoro et Goodmanson. Donc, ce qui veut dire que Cabella et Alexandro sont sur le banc. Hein. Sinon, pour le reste, c'est Ismaili au côté gauche, Thiago Santos à droite, Yoro avec Diakité, Chevalier, André Bentaleb, Haraldsson et puis Goodmanson, Zegrova. Jonathan David.
Merci Jean Baumel. 21h, hein, le coup d'envoi de ce match entre Aston Villa et le LOSC. Duga, est-ce que tu es confiant?
Ouais, Duga, si tu mets le côté affectif de côté, est-ce que...
Non. Ah bah oui, c'est
mais je suis pas confiant parce que je pense que pour les clubs français, c'est un plafond de verre. Voilà, ce niveau-là. Je pense que la marche est trop haute. Après, je demande qu'à être surpris. Mais malheureusement, ces dernières années, ça a pas été le cas. Donc, on a plutôt brillé sur les tours précédents. On a plutôt montré ce qu'on était capable de faire. Après, je pense que le niveau s'élève de trop. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment encore de joueurs talentueux ou de maturité ou tout ce que tu veux. Donc, ça serait pour moi très agréable surprise.
Vous dites souvent, on attend dans une équipe comme ça un grand gardien de but et un buteur. Bah Lille les a en fait.
Après, bien évidemment qu'il y a des faits de match qui peuvent être hyper favorables et tout peut très bien se passer. Personne peut le savoir. Voilà. Après, c'est un ressenti, c'est une sensibilité. Ouais. Voilà. Moi, je vois Aston Villa et pour le coup, comme mes collègues, je les vois beaucoup jouer. C'est quand même une sacrée.
Le champion la portugais, le champion anglais, quand du cas tu le.
La Première Ligue, vous regardez pas non plus la Première Ligue.
Fais gaffe à la fracture, à la fatigue quand même.
Tu regardes en replay tous les matchs, fais gaffe à la mouligo quand même.
On découvre l'Angleterre et le Portugal ce soir.
Les mecs me demandent comment je fais pour être assidu au travail. Les mecs, vous avez des goffes.
Eric,
je fais juste mon boulot, c'est tout.
Eric, il y a 15 jours, il nous disait qu'il bouffait les matchs d'Arabie Saoudite aussi.
T'as arrêté, Duga, l'Arabie Saoudite. Là, c'est moi. Depuis qu'ils ont, je sais pas combien de points d'avance, les autres.
Franchement, Duga, moi, je savais pas si t'allais rester dans l'émission l'année prochaine. Mais franchement, je vais trop signer.
Un Coréen qui a découvert le boulot à ses 4-5 ans, quand même.
Il a attendu d'être à la retraite pour se mettre à regarder les matchs.
Un Coréen qui met l'accélération quand c'est la fin.
Mais t'as raison, il travaille plus qu'autant de Team Duga, quoi. C'est dingue.
Mais non, mais je suis fier de faire partie de cette grande émission avec Jérôme. Et j'ai envie que ça fonctionne. J'ai envie qu'on soit.
Franchement, c'est quel bonheur.
C'est un message d'espoir pour tous.
Moi, je travaille pas pour moi, je travaille pour l'émission, je travaille pour la chaîne, pour RMC. Je suis corporate, je pense à mes amis.
Mais à ce point-là, c'est
Non, moi je m'investis. Ou alors je le fais. Tu sais, dans la vie, je crois que les choses, il faut les faire bien, ou alors on les fait
raison,
pas.
Bravo,
Julien. D'ailleurs, Duga, tu peux nous rappeler qui coach Aston Villa, pour le coup?
Ah, ben oui, Unai.
Unai Emery.
Unai Emery.
Eh oui, il est là.
C'est un ami. C'est une coach, bien sûr.
Allez, en tout cas, le match, c'est
à suivre. Mais il y a un truc qui s'est passé chez Duga. Là, il faut creuser. Parce qu'apparemment, moi, on me dit que le matin, il se lève, il va faire du fractionné aussi.
Non.
C'est dingue.
En revanche, il se lève très tôt. Moi, je peux confirmer, on s'est appelé très tôt ce matin.
Merci. C'est la première fois que quelqu'un m'appelle aussi tôt pour le boulot, quand même. Jean-Louis n'a jamais osé m'appeler.
C'est pas ça,
à 9h du matin. Jamais.
Bah non, parce qu'il sait que t'es au golf déjà avec Lolo.
Bah, il part Il partait.
Il partait.
Il partait là-bas.
Ouais, bon, parce qu'après, il fait trop chaud.
C'est la grande soirée européenne, Afterlife ce soir. Benfica, OM et Aston Villa, Lille. Afterlife dès 20h avec Nico Villas. Mais Jérôme, c'est le moment. Le moment de l'expérience RMC. Tu vas faire un heureux. Une personne que tu vas envoyer au Montjuic, le stade olympique de Barcelone, pour match retour.
Je vais le faire kiffer. Il va me parler.
Et le gagnant, c'est Corentin. On va l'appeler. Appel, attention. Corentin.
Allô?
Salut Coco.
Salut.
Ça va?
Ça va, ouais.
Tu sais qui c'est?
Ouais, je pense,
ouais. Ah ouais? Bon, bah écoute, tu penses. Alors écoute, c'est Roten sans flamme qui t'appelle.
Ouais, c'est mon ami Jérôme. Ouais.
Exactement, ton ami Jérôme. Il est là, il est content de t'offrir l'expérience RMC. Ah ouais. C'est magnifique.
Magnifique.
Tu vas aller à Barcelone pour kiffer sur le match Barcelone Paris Saint-Germain. Oui, il y a tout est prévu. Vas-y Benoît, dis-nous tout ce
le
qu'il
vol,
a gagné.
L'hôtel, la place pour le match, la rencontre avec les équipes RMC Sport. Ouais, bon, vas rencontrer Manu Petit en chair et en os. Ouais. Jeannot Rességuier en chair et en os. Jérôme Sillon en chair et en os.
Ouais, bah ça, il y en a certains, c'est impressionnant. Hein.
Ouais, il y en a, c'est plus ça, il cher. Hein. Ouais. Il y en a, c'est plus ça, il cher qu'un os.
Non, mais Jeannot va se vexer. Ouais. Donc, on est obligé de le mettre en
attention,
avant.
Attention, Manu Petit refuse les autographes, hein, Corentin, en prévient.
Mais Corentin, en tout cas, tu vas passer un magnifique moment. Ah ouais. J'en suis sûr.
Bah, merci beaucoup.
Et écoute, essaye de nous réveiller cette équipe du Paris Saint-Germain pour qu'elle revienne avec la qualif.
Et voilà.
Ouais, on va les faire gagner.
Ce sera mardi. Bravo, Corentin.
Et Coco, on dit merci qui?
Bah merci Jean-Mou.
Voilà, exactement. Ouais, il y a qui se dit dans Tête sans flamme qu'on vous offre ça, c'est fantastique.
J'ai eu peur de la réponse.
Oui, de connaissance, ça m'étonne pas. Oui. Et c'est peut-être la seule personne, Corentin, qui dit merci Jérôme. Et en tout cas, bravo.
Corentin, bravo. Bravo encore.
Allez, bravo Corentin. On l'envoie donc à Barcelone pour le match retour, quart de finale, retour de Ligue des Champions dans un instant. Jérôme, t'es en lice pour un grand chelem cette semaine.
J'ai gagné, j'ai fait que gagner.
Mais c'est ton deuxième match de la semaine face à la doublette du Gary Dimeco.
Bon, même s'est fait fourrer le nid au.
Ouais, mais Eric, du gars a bossé, qui peut t'aider.
Ouais. Ah, mais oui, c'est bon, c'est vrai. Bon,
alors, comme à chaque fois.
Allez, à tout de suite.
Tranquille, en roue libre là.
RMC, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h46 sur RMC, les 10 dernières minutes de Roten sans flamme du soir. Et oui, c'est maintenant avec le quiz de Julien Cazard. On est avec Eric Dimeco et Christophe Dugarry qui vont prendre leur revanche de lundi parce qu'ils ont perdu contre moi et Benoît Boutron, mon joker. Deux auditeurs, un super cadeau à vous faire gagner. On va se régaler.
Allez, on y va.
Roten contre le reste du monde, saison 3.
Alors je tiens à dire qu'effectivement tu nous avais promis que si tu me fais gagner le quiz là, on va gagner c'est contre le Barça. Pas marché du tout. Non, mais d'accord, mais il y a encore deux matchs ce soir.
Bien sûr.
Il y a Marseille et Lille.
Bah les couilles.
Allez,
bon, ça t'as mis une belle écharpe, hein, par contre.
Une belle écharpe.
Ouais, on l'enverra à Eric, ton écharpe.
Dommage Halloween.
Christophe et Frédéric vont s'affronter ce soir. Salut messieurs.
Bonsoir.
Bonjour.
Frédéric, supporter de l'OM, est-ce que tu veux jouer avec Duga et Eric?
Oui.
Allez, Frédéric, avec le reste du monde.
Allez, Frédéric, bon courage.
Et oui.
Et du coup, Christophe, avec Jérôme Bretagne.
C'est pas du, comme esprit.
Question flash. Dans le match de ce soir, un des matchs de ce soir, qui concerne les équipes françaises, qui a été champion de France en 2012?
Dans les équipes?
L'équipe française qui joue ce soir, qui a été champion de France en 2012?
En 2012
Lolo.
David Luiz.
On cherche un joueur?
Non, David Luiz.
Di Maria.
Et non, il n'avait pas été champion en 2012.
C'est Montpellier.
Ding. Non, Lucas Ding.
C'est un joueur de Montpellier. Donc c'est qui? C'est Giroud, non?
Cabella. Bonne réponse. Rémi.
Ah, dans les équipes françaises.
Mais oui, dans les équipes françaises. Oh, t'es pas nul. Dis pas ça.
Fais des matchs actuels pour Dugas, s'il te plaît.
C'est vrai qu'il maîtrise un peu. Ouais.
Fais des questions sur le championnat portugais. Ah
ouais. On va faire une question. Qui est cultivé? Attention, la culture. Culture RMC. On va se détendre.
Donne-moi le point déjà.
Oui. D'accord. Quel ancien du Benfica avait son générique dans un jeu télé des années 80 avec Guilux?
Avait son générique?
Oui, il avait son nom dans le générique. On chantait son nom dans un générique des années 80 avec Guilux.
Maître Capelovici?
On chantait son nom dans un générique. On chantait son nom. J'ai pas de notice.
Guilux, c'est quoi? C'est Interville?
C'est Interville.
Par exemple. Bah oui.
Par exemple, et qu'est-ce qu'il y avait dedans?
Chalana!
La la la!
la ouais. Chalala.
Ça marche tout de suite. Direct, ça marche.
Direct, ça marche. C'est une radio culture.
Ouais, et moi, je m'embête à travailler mes fiches et tout, à faire un travail sérieux.
Déjà,
déconne pas. Oh, du gars, il a regardé tous les matchs du week-end pour le quiz. Et tu nous mets les chansons d'Interville.
Exactement. Du gars, espèce de vieille, il a joué avec toi, Chalana. C'était le seul qui a joué avec lui.
Comment ça, il a joué avec moi?
Non, il a joué avec lui. T'étais en junior quand il a joué.
Non, mais non,
ils ont 20 ans d'écart,
c'était les années 80, c'était milieu des années 80.
T'étais pas déjà à Bordeaux, toi?
Oui, chez les petits, chez les poussins.
C'était ton idole, c'était ton idole quand il a mis le péno contre Dipo Petrov.
Et ça fait 2-0 pour Jérôme et Christophe.
Qui cahouège ici? Oh, c'est trop facile pour les gars.
Ah.
Saint-Pétersbourg, Benfica, Standard de Liège.
Ah, Witzel.
Oh. Je l'ai.
Alors, prononce le mieux.
Witzel.
Prononce le mieux.
Witzel.
Non. Witzel.
Witzel.
Oh, ouais,
Witzel.
Donne-lui.
Je le donne à Eric, mais on dit Witzel.
Ah, non. On dit wagon et on dit Witzel.
En Belgique.
Je suis désolé.
En Belgique, ils disent wagon.
Oui, mais nous, on n'est pas Belgique, nous.
Eh bien, lui, il est belge.
Ah, mais ma foi. On n'est pas chez. On n'est pas dans l'émission Compagnie Sam Flamme. On est chez Rotten Sam Flamme. Je suis désolé.
Ça s'en rend compte.
Allez, 2-1 pour Jérôme contre le reste du monde.
Attention. C'est pas Joker.
Quoi? Il a un joker!
Et le joker, c'est Daniel Riolo!
Je peux pas, j'ai rendez-vous avec ma patronne!
Daniel!
J'arrive, Faïza!
Bon, bah, c'est Benoît qui va faire Daniel.
Il a encore bien défendu le fils à maman hier. Mmh. Mmh. Qui est l'intrus? Bon, là, c'est facile pour du gars. Bernardo Silva, Rui Costa, Renato Sanchez, Paoletta, Abel Xavier, Valdo.
Rodi?
Bernardo Silva, Valdo, Rui Costa, Bernardo Silva.
Non. Paoletta n'a jamais joué au Benfica.
Paoletta n'a jamais joué à Benfica. Bravo à Dugas, je dirais bravo à Dugas tout le temps, quoi qu'il arrive.
Oui, bravo Dugas parce que c'est lui qui me l'a soufflé. Comme il a regardé le championnat ce week-end, il me l'a soufflé.
J'ai regardé un match, je ne connais pas l'histoire de.
Le
mec, il a eu.
Il a joué en junior. Il n'a pas joué en pro.
Le mec, il a eu le malheur de regarder un match et de nous le dire.
Julien, attention.
Non, mais il a joué en junior, tu ne l'as pas dit en pro. Je suis désolé, il y a une erreur.
Oui, mais toi, t'as pas dit de réponse, donc de toute façon, tu peux pas avoir bon, quoi qu'il arrive.
Ah, mais et donc toi, déjà, t'as tort.
Il a pas joué un pro à Benfica, casse pas les couilles.
Oui. Non, t'as pas dit ça. Bah ouais,
mais là, mais tu vois, c'est avec des trucs comme ça qu'on perd contre le Barça. C'est avec des gens comme toi. Mauvaise foi, nul, mal placé. Allez, pas,
moi, les quarts de finale Ligue des Champions, je les ai passés.
Oh, pas. Combien de fois déjà?
Une fois, ça suffit, non? Pour aller au bout, non?
C'est sûr.
Non?
Visiblement pas.
Ah, bah si.
Deux partout.
Il y en a, ils aimeraient.
Entre Jérôme et le reste du monde.
Question qui que c'est Tidon. Alors, elle est pour du gars celle-là. Mon premier lutte quand il est de fer ou de terre. Mon deuxième n'est pas au milieu de la piscine.
Pochettino.
Non. Mon troisième permet d'avoir son flocon ou ses étoiles. Mon tout a joué à Benfica. International.
Répète le 2.
Check. Il n'est pas au milieu de la piscine.
Ah, c'est Poborski.
Poborski. Bonne réponse de Dugas.
Ouais,
il est chaud.
Peut-être Dugas, il va avoir même le championnat tchèque.
Truc de fou.
C'est dingue, c'est fou ça. Il est fou ce Dugas.
Je crois que Dugas, il envoie un texto à Eric et Eric a le temps de le dire.
Alors qu'on pourrait le dire, juste.
C'est fou.
C'est la classe.
C'est parce qu'il est humble.
Et ça fait 3-2 pour le reste du temps.
Ah, il gagne là ?
3-2. C'est Jean-Michel Larquet sur RMC.
Oh, c'est moi le dinosaure. Dinosaure.
Question Larquet, mais que qui écoute ?
Ah, donc Christophe face à Frédéric.
Larquet qui.
Il n'y a que les auditeurs et Dugas, évidemment. Mais à travers les auditeurs, ils ont le droit de renvoyer un texto. On parle de la remontada depuis le début de la semaine, mais quelle est la plus lourde défaite du PSG à domicile en match européen?
Oh, je l'ai, moi.
Ah oui,
C'est le même score que la remontada. Mais contre qui? Ils ont perdu.
Ah, contre qui? Avec Grande Europe, balance.
Taisez-vous, il n'y a que du gars qui a le droit d'aider. Ça veut te dire quoi?
Valenciennes.
Qui ça? Valenciennes, non, c'est un Grand d'Europe. C'est pas.
Déconner,
gros. Oh, déconner, oh, gros.
Valence,
alors, je vais vous aider, c'est un club. C'est un club,
ma cazzo fai.
Une fois.
Christophe.
Deux fois.
Non, mais je l'ai laissé.
Inter. Non, là, je
vais.
Mais vous l'avez pas. On a les auditeurs
qu'on mérite. Ils sont pires que ceux du Moscato Show, Jérôme. Remets-toi en question.
Là, j'ai honte. Là, j'ai honte.
Maquet Pasta, Real Madrid. Question Dugas, parce qu'il n'y a que Dugas qui peut répondre, de toute façon.
Oh là là.
Oh, du gaz. Qu'est-ce que tu caches dans ton cerveau? What do you hide into your brain? Oh, bro.
Du gars. C'est un kick city qui te concerne. Dans l'équipe du Barça qui a eu la chance de te t'avoir avec à ses côtés. C'est quel joueur n'était pas très à l'aise sur la pelouse, il aurait préféré jouer sur de la terre battue.
Ah, Nadal.
Prénom?
Je crois que c'était Guillermo. Non,
Guillermo Nadal.
Ouais, c'était
bien
le,
sûr. Non, c'était Miguel André Nadal.
Oui, mais on s'en fout du prénom. Oh, mais on s'en fout. Oh.
Je m'en souviens pas.
Son surnom c'était Guillermo. Mais oui, c'est parce que c'était Guillermo Villas.
On l'appelait tous comme ça, mais
bien sûr.
Mais
oui. Alors, faut savoir que c'est le diminutif de Miguel Angel Guillermo.
Mais non, parce que il ressemble à Guillermo Villas, donc.
Bien sûr. Ça annule un point.
Et à Nicolas Villas.
Pas du tout. J'ai dit Nadal. Arrête un peu.
Tu sais que j'avais échangé. À l'Euro 96, j'avais échangé mon maillot avec lui.
C'est important. Il y a désormais 4-2 et le chrono est terminé.
Question de points.
Les questions de points.
C'est une question.
Très gentil,
points.
Mais Dugas lui a jamais parlé.
Ou à 3 points.
question à 3 points, parce que là, c'est carrément la question d'Imeco.
C'est la question, Eric Dimeco.
Mais il est fou, ce mec. Oui. Piro, donne-lui une gifle pour moi. Et tu dis bien que c'est moi qui lui ai mis.
Il a un peu triché, mon vieux. Et pardi.
Oh, pas les couilles.
Tous les clichés.
Jingle.
Il est magnifique, celui-là.
Tous les clichés sont là.
Allez. Attention, vous allez chacun à votre tour. Ça va aller vite, hein, parce qu'il n'y en a pas tant que 36. Mais chacun à votre dos, vous allez me donner le nom d'un joueur qui est passé par Paris
et par Benfica.
Vas-y, Di Maria.
Allez, vite.
Di Maria. Di Maria, c'est bon. À toi, Eric.
Ricardo,
c'est bon. Duga.
Valdo.
C'est bon. Jérôme.
Draxler.
C'est bon. Eric.
Di Maria.
C'est bon.
Di Maria.
Duga.
Oui, non, je l'ai dit.
Il a déjà dit, pardon.
Quoi?
Déjà dit, en premier.
Il a dit en premier.
En trichant. Dès qu'il triche, ça fait trois fois qu'il triche.
Mais je triche, le mythe tombe, vas-y, parce que moi, je suis pas tricheur. Je suis pas tricheur, moi.
Guedes, c'est bon. À toi.
Gonzalo
Ramos. Non, mais dis rien, il faut qu'il continue. C'est à Dugas.
Mais non, mais Dugas, il l'a dit, donc c'est à moi.
Guedes, j'ai dit.
Ah oui, Gonzalo Ramos, c'est bon. À toi.
Bernat.
Oh. Juan Bernat, c'est bon.
Ah oui.
Joli.
Renato Sanchez,
c'est bon.
Ah ouais, pas mal, punaise.
Une fois.
Rodriguez.
Ah oui, ouais. C'est vrai.
Oui, bien sûr.
C'est bon. Ouais, le petit gaucher là.
Celui qui a pas beaucoup joué au PSG pour l'instant, Endur.
Cher Endur, bien joué. Et... Duga.
Je suis en train de me demander si le.
Si, ouais.
Demande-toi, mais c'est pas le défenseur central là, du PSG là, qui n'a pas joué là, le portugais. Je ne sais pas si c'est Benfica ou pas.
Une fois, deux fois.
Tu peux tricher, Duga.
Trois fois, même en trichant, il n'y arrive pas.
Non, je ne triche pas.
David Luiz.
Et trois points de plus pour Jérôme, ouais, ça veut dire que.
Victoire du
Jérôme. Et j'ai gagné!
Oui, mais fais ses points aussi, pas la cognée.
Tu pouvais tricher, t'es mauvais!
C'est magnifique en tout cas. C'est Jérôme qui s'impose et c'est Christophe qui remporte ce magnifique cadeau.
Rotten sans flamme sur RMC avec Fort Padel. Plus de 20 centres de padel et premier réseau de clubs de padel en France pour jouer entre collègues et amis. Réservez votre piste sur fortpadel.fr.
Et dans un instant, c'est Nico Villas et Oussem Le CF qui prennent le relais. L'after live autour de cette grande soirée européenne. Les quarts de finale de Coupe d'Europe. Benfica, OM et Aston Villa Lille, Jérôme.
Bonne soirée à tous, restez bien à l'écoute d'RMC, grande soirée bien sûr européenne encore sur RMC, oui, vous allez vous régaler avec Nico Villas et toute son équipe et nous on se retrouve demain pour clôturer cette magnifique semaine, du moins on espère magnifique semaine européenne pour les clubs français, ça a mal démarré hier mais on croit en Lille, on croit en Marseille, il va falloir des exploits et on analysera tout ça demain à partir de 18h et bien sûr on lancera la prochaine journée de championnat de Ligue 1 avec notre fameux multiplex. Bisous à tous, bonne soirée, à demain.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.